une production du Studio SF.
Salutations, groupe. Encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute. Dernièrement, je reçois énormément de messages très positifs, des témoignages, des histoires du monde qui relate avec le podcast. Je vous lis, je vous entends, je vous remercie profondément et je vous félicite parce que vous faites pas ou très peu de fautes de français. Et ça, c'est rare quand même. Et je trouve ça rassurant. Ça en dit long, je trouve, sur la crowd qui écoute le podcast. Donc, vous m'envoyez rassuré. Et je suis comme fier de nous en tant que groupe. Merci beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un projet de cœur. Puis j'ai l'impression que ça traverse l'audio, mettons, là, t'sais, les écouteurs. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Fabrice Ville. C'est un gars qui a étudié en droit. Il a pratiqué le droit pendant quelques années. Et depuis 2011, il a mis sur pied l'organisme Pour Trois Points, qui est un organisme, en fait, qui éduque, ou du moins, je sais pas comment dire ça, là, mais voyons, je cherche nommer mon mot, qui coach des coachs, en fait, pour aller entraîner des jeunes dans des quartiers défavorisés. Bref, Fabrice aussi, c'est un gars qui, à l'époque de Odé Bali, quand il y avait eu des commentaires racistes qui avaient été dits à l'émission par certaines candidates, c'est Fabrice qui avait été appelé par la production afin de communiquer avec les candidates pour les éduquer à ce niveau-là. Et encore une fois, dans le contexte actuel dans lequel on vit présentement, là, on est au mois d'août 2020, pour ceux qui écoutent ça, en 2034, alors que Romano Fafard vient d'arriver, vient de quitter. C'est un contexte qui est encore très, très chargé émotivement en termes de racisme. Le Black Lives Matter bat son plan encore une fois suite à l'assassinat de George Floyd. Il vient d'avoir des attentats, ben pas des attentats, mon Dieu, c'est pas un attentat, mais il vient d'avoir une grosse explosion au Liban. Ça va pas super bien, qui fait en sorte que je pense que Fabrice était un invité important à recevoir pour un peu nous éclairer sur certains trucs là-dessus. Je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec le charmant Fabrice Ville.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Fabrice, ce matin, quand j'habite chez mes parents ces temps-ci, là, en tout cas, long story short, là, j'ai acheté une maison puis je n'ai pas installé encore. Fait que chez mes parents, puis ce matin, ma mère est comment, tu t'en vas enregistrer un podcast avec qui? Puis je disais Fabrice Ville, et ma mère était tellement contente. Elle est comme, ouais. J'ai tellement hâte de l'entendre, il est tellement intéressant, je le trouve brillant. Elle était vraiment heureuse, donc je tenais à te le dire
Ben bonjour à ta mère, c'est quoi son nom?
Nicole.
Ben bonjour Nicole.
Yes. Et bon, c'est pas la question la plus originale, mais j'ai l'impression que dans le contexte actuel dans lequel on vit, ça demeure une question très humaine à poser. Comment tu vas?
Ça va. Je dirais pas que ça va bien. Ben t'as vu la vidéo de Pierre-Yves Roy des Marais qui
ça va mal.
Ça va mal. je pense que Pierre-Yves a réussi, ceux qui l'ont pas vu là, j'invite les gens à le voir là, mais je pense que Pierre-Yves a réussi à avec l'humour à porter avec légèreté l'idée que ça va mal. Donc pour moi le ça va, c'est comme une forme de neutralité, tu sais, ça je suis comme je te dirais que en même temps que je suis un peu inquiet du contexte social actuel, tu sais, dans le monde, au Québec, au Canada, ailleurs, par rapport à un ensemble d'éléments. Je passe beaucoup de temps en nature, fait que ça me connecte avec des trucs qui ont toujours existé puis qui sont vraiment nice, comme des arbres, des lacs, des rivières, tu sais, puis ça me fait du bien, ça. Je suis particulièrement occupé, fait que ça me rend fatigué. Puis je suis occupé, puis je suis dans une période où j'arrive pas à gérer mon niveau de, d'occupation de manière juste correctement. Je suis ici, puis j'ai en même temps avec la gang de Pour 3 Points, l'organisme que j'ai fondé, puis ouais. J'imagine qu'on pourra peut-être en parler.
Absolument.
Il y a un meeting qui n'était pas à mon agenda que je manque en ce moment.
Non!
Oui.
Ah, mais là, avoir su, t'aurais pu.
Non, c'est correct. C'est correct, mais tu sais, j'avais un engagement là, mais c'est vraiment des affaires purement logistiques qui font en sorte que je fais comme... C'est pas le fun. Mm-hmm. Fait que c'est pas comme « Ah, cool, tout va bien ». Fait que si je suis allé vraiment autant dans le contexte social à des petites affaires qui sont des irritants, qui sont vraiment des problèmes en ce moment pour moi. Là, je réponds pas à mes courriels aussi rapidement que je souhaiterais. Puis j'observe que la vie est continue pareil. Tu sais, il y a la nature, j'ai ma famille qui est là, ma tante... je la salue aussi, Venise. Ma tante est célèbre, c'est 70 ans aujourd'hui.
Ouais! Joyeux anniversaire, ouais, Venise.
Fait que je vais lui proposer de voir la vidéo. Fait que j'ai tout ça en même temps, la beauté de la vie puis les problèmes, tu sais, qui se passent en ce moment.
Je pense que on est tous un peu dans ce contexte-là. Tu sais, justement, quand je t'ai écrit pour t'inviter à venir au podcast, tu sais, pour moi, c'était vraiment important de dire ça, je serais heureux que tu viennes, mais je savais que tu étais en nature à ce moment-là puis je partage ce besoin-là de trouver un équilibre entre la folie de la ville puis avancer les projets puis la passion du travail, mais aussi de décrocher de temps en temps puis d'aller un peu loin en nature, dans le bois. Fait que pour moi, c'est important à ce moment-là de t'écrire. T'sais, prends, il n'y a rien qui rush. Quand tu sortiras du bois, écris-moi puis ça va aller. Et je suis désolé que tu manques un meeting.
J'apprécie que tu sois là. Mais je l'ai appris ce matin. Si j'avais su hier, je t'aurais appelé. Ouais. Mais je l'ai appris ce matin alors que j'étais en préparation pour m'en venir. Fait que ça va.
Et là, qu'est-ce qui fait que tu es si occupé de ce temps-là? Parce qu'évidemment, tu as ton organisme pour 3 points qui depuis 2011, si je ne me trompe pas. Qu'on va parler assurément, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un tollé par rapport au racisme dans le monde et donc au Québec, qu'est-ce qui fait que c'est toi qu'on appelle? Comment ça a commencé, ça? Et est-ce que tu es heureux de ce rôle-là?
Je dirais que... je sais pas exactement pourquoi on m'appelle moi, mais je vais partir de certaines hypothèses. Ça fait déjà longtemps que je parle d'enjeux liés aux inégalités, incluant le racisme, dans les médias, à une époque où c'était moins mainstream. Je dirais que depuis le décès de George Floyd, c'est rendu un enjeu de popularité, presque comme on regarde le Canadien, tu sais. Fait que il y a ça qui est quand même assez curieux, mais j'écris dans Le Devoir j'ai fait ça de 2016 à 2018. J'ai écrit dans la presse par la suite, donc jusqu'à la pandémie. Je me prononce sur d'autres plateformes sur ces enjeux-là. Donc ça vient pas de nulle part, cette apparition-là dans les médias. Je m'implique en fait autant sur le terrain, mais je fais un petit peu de radio à Radio-Canada. Je fais de la télévision. J'en ai fait à VRAC TV. Fait que c'est comme j'ai exercé un rôle dans la sphère publique depuis très longtemps. C'est juste que là, il y a eu comme une espèce de boom, tu sais, qui fait en sorte que là, le sujet qui gagne en popularité, ben je suis un de ceux au Québec qui en parle et je suis pas le seul. D'où la partie où je me dis, ben il y a moi, mais des personnes comme Émilie Nicolas qui est chroniqueuse au Devoir, c'en est une Vanessa Destiné, une Carla Beauvais, il y a différentes personnes qui prennent position, mais c'est vrai que je trouve que présentement, j'occupe une place prépondérante, puis il y a eu un concours de circonstances aussi. Une semaine avant le décès de George Floyd, j'ai fait « Tout le monde en parle ». C'est comme comment la vie fait les choses. T'sais. J'ai fait « Tout le monde en parle », 1,3 million de personnes, puis ça s'était très bien passé. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui ont fait en sorte...
En direct en plus.
Puis moi, j'ai apprécié l'expérience. Puis une chose que je trouve le fun, j'ai pensé hier, quand j'ai croisé une dame, je viens de me faire couper les cheveux, hein, mes cheveux sont comme...
Yeah, la chasse est clean, mon gars.
Pas comme d'habitude, tu sais. Ces jours-ci, là, mes cheveux, des fois, mais là, you know... Jimmy Fleurival, shout-out, tu sais, je bloque des shout-outs.
Fucking right, absolument.
Alors, je sors du coiffeur et il y a une dame qui me dit « Je vous connais, vous. » Puis moi, je suis pas encore habitué à cette interaction-là, tu sais. Puis j'ai trouvé cette interaction-là particulièrement agréable. Elle m'a regardé puis elle m'a dit « Ben, je vous ai entendu par rapport aux enjeux du racisme, mais elle parlait pas de moi comme personne. Elle était comme, puis c'est fascinant, elle était comme, ouais, ce que vous avez dit à telle entrevue, ça m'a fait réfléchir à tel truc, j'ai commandé tel livre. Puis là, elle était comme, Sensibility, ouais, c'est comme White Fragility. Elle dit, oui, je l'ai commandé, je l'attends, je vais le lire. Elle dit, j'osais pas vous écrire, j'ai écrit. Puis là, j'ai dit, mais écrivez-moi quand vous l'aurez lu, le livre. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant à ce moment-là, c'est la première fois que je pense que j'ai vécu cette expérience-là, c'est que, j'étais comme, la madame est intéressée au racisme comme sujet, mais pas à moi. Puis une madame qui me dit « White Fragility, je le commande comme livre », c'est rendu mainstream comme on parle de jardinage, puis on va en parler. Si on arrive à décomplexer les enjeux racistes comme ça, on fait un progrès social, parce que là, on est capable de s'informer. Puis elle, dans sa vie, là, ça paraissait que c'était comme « je magasine, je parle de l'environnement, je parle de racisme, je suis curieux ». Fait que ça, c'est vraiment cool. La partie que je trouve probablement qui peut progresser un peu plus, c'est que j'ai pas le goût de devenir le monsieur qui parle de racisme seulement. J'ai eu une rencontre avec des femmes noires qui me parlaient aussi, qui critiquaient le fait que je prenais beaucoup de place dans les médias d'ailleurs. Puis avec raison, puis je le mentionne parce que elles m'ont amené à réfléchir au fait que, par exemple, quand on parle d'enjeux liés au sexisme, ce sont les femmes blanches. Quand on parle d'enjeux liés au racisme, ce sont des hommes racisés, donc ça peut être des hommes noirs. Puis l'intersection, souvent, elle se fait pas. Puis ils ont une particularité dans qu'est-ce qu'elles vivent. Donc les femmes noires trans, il y a un ensemble d'enjeux que, quand je les entendais, j'étais comme, ouais, mais c'est vrai, vous avez des choses à dire et vous avez pas la visibilité que j'ai. Fait que je suis autant content d'être dans les médias, mais moi, ça me fait réfléchir comment on peut accorder une place additionnelle à des voix qu'on entend moins. C'est toujours la fameuse question, qui a le plus de voix? Puis là-dedans, puis ce serait, encore une fois, je parle, n'hésitez pas à m'arrêter, mais je parle aussi du fait que j'ai beau être un... Je pense que le fait d'être noir génère des obstacles dans le traitement que j'ai, que je reçois, mais je suis un homme, je suis hétérosexuel, j'ai deux parents éduqués, j'ai deux parents qui m'ont envoyé dans des collèges privés, qui ont payé mes études jusqu'aux études universitaires. J'ai été avocat dans ma vie. Fait que le privilège, là, j'en ai comme plein. Puis le fait d'avoir accès à ça, depuis mon enfance, j'ai un réseau qui me permet de dire « Hey, je connais telle personne, je connais telle autre personne. » Puis ça comme, plus je connais du monde, plus je rencontre du monde qui me permet de connaître d'autres personnes. Fait que, en plus de l'explication de qu'est-ce qui fait en sorte que je suis dans les médias par rapport à j'en parle depuis longtemps, puis on m'a donné des accès parce que j'ai des connaissances, des réseaux auxquels j'ai accès depuis que je suis un enfant que d'autres personnes n'ont pas. Puis ça, ben, je pense que je veux pas me sentir coupable de ça, mais je veux l'utiliser de façon responsable aussi.
Ben, puis je pense que c'est la raison pour laquelle aussi tu continues d'être invité, puis tu continues d'être dans les médias, c'est que tu le fais bien. Tu vois, tu sais, je veux dire, on s'entend ici en ce moment, on est sur YouTube ou sur Spotify, ça se veut bien raw, c'est un podcast. Puis naturellement, t'offres tout de suite ta lumière à d'autres, de dire « Ah, ben moi, je suis ici, mais les femmes noires trans pourraient être ici aussi. » Tu sais, y a quand même cette générosité-là, puis cette empathie-là, puis cette ouverture-là, puis ce désir-là d'utiliser la tribune que t'as pour offrir à d'autres.
Ouais, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est comme le premier... D'en parler maintenant, c'est le premier pas à ce qu'à un moment donné, on s'en parle, puis là, tu disais, mais je vais l'inviter, là, de qui tu parlais, tu sais. Puis là, je vais pas du name-calling sur ça parce que je peux pas me mettre à leur place sur qu'est-ce qu'elles voudraient ou pas, mais je pense que c'est ça qui est le point de départ. Parlons-en.
Mais puis de plus en plus, c'est ce que j'ai la chance de faire avec cette plateforme-là, c'est de les gens que je rencontre, mais souvent, je vais faire... Tu sais, j'ai reçu Rosemée Autonne-Témorin récemment, ben j'ai demandé, « Hey, quand tu parlais de ça dans le podcast, qui... Ouais, as-tu des noms en tête? » Et tu me parlais de ça, puis naturellement, je fais, ben, c'est sûr que je vais te réécrire pour avoir.
Puis il y en a là. Puis, tu sais, j'en suis vraiment au fond de qu'est-ce que ces personnes me parlent dans les conversations qu'on a eues. Puis, je ne suis pas transposer la conversation, mais on a eu des conversations fabuleuses sur, entre autres, de point de vue, justement, systémique. Tu sais, quand on parle, par exemple, de diversité et d'inclusion, la diversité et l'inclusion, ben, ça présuppose qu'on inclut le monde dans un système qui fonctionne pas. Mais comment qu'on fait pour déconstruire le système? Puis comment qu'on fait pour pas juste dire, on va avoir quelqu'un sur un front page, on va avoir un membre de conseil d'administration?
C'est ça.
Comment qu'on fait pour dire, là, mettons, par exemple, le capitalisme, là, ça, c'est problématique, puis d'aller directement là? Fait que c'était des beaux échanges. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool, en fait, d'avoir des gens qui... Puis c'est des messages que je porte aussi. Ça en est une autre chose aussi. je pense que quand je parle, j'ai un esprit très pédagogue, je crois. Puis par souhait que les gens me comprennent, il y a des choses que je dis pas, mais c'est juste naturellement. C'est pas que je veux pas les dire, c'est que naturellement, je dis pas des choses qui font en sorte qu'il y a des gens qui vont peut-être se braquer. Fait que ça passe peut-être mieux. Mais il y a du monde qui dit « Ouais, mais pendant que tu fais ça, il y a des choses que tu dis pas qui sont vraiment, vraiment importantes. Ouais. » Ça aussi, de voir comment dans les médias, on peut regarder quelque chose ou écouter quelque chose, puis on dit « Tabarnouche, ça me choque vraiment ce que j'ai entendu là. » Mais je vais l'écouter pareil.
Ouais.
Nos médias n'ont pas encore... C'est normal, tu sais. Il n'y a pas personne qui allume la télé pour entendre des choses carrément problématiques.
Mais ça en dit quand même long sur la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est très réconforté. On ne veut pas être choqué. On ne veut pas être shaké. Puis tu sais, j'aimais les... C'est que mettons, j'ai reçu Nicolas Ouellet ici, puis oui. Quand on parlait du Black Lives Matter, mettons, je sentais qu'il pesait ses mots, puis il a quand même plongé dans la piscine, puis il est allé, puis je sais aussi que la communauté noire peut être exigeante aussi envers ses représentants dans les médias, là, entre guillemets, là, tu sais, je sais qu'un gars comme Kevin Raphaël ou Nick, ou probablement que toi aussi, des fois, justement, que lorsque tu rencontres ta communauté, ils font « Hey, c'est cool que tu sois là, mais oublie pas... » telle facette, ils sont exigeants avec vous et avec raison. Mmh. Mais il y a quelque chose, Nick, ce qu'il disait, c'est qu'il souhaite qu'on s'offre la possibilité d'avoir des conversations, qui fait en sorte qu'il y a moyen de poser des questions un peu maladroites sans se faire taper dessus, puis à recevoir une réponse qui, comme tu le fais si bien, souhaite éduquer les gens qui écoutent.
T'sais. 100%. 100%. Dans mon parcours, j'ai tout un pan de mon parcours qui est en lien avec le coaching, le développement de l'humain.
Qu'est-ce qui fait que... Parce que toi, le coaching a été... Les coachs que tu as eus dans ta vie au basket, que tu as commencé à 9 ans, si je ne me trompe pas, le basket, les coachs ont été... Il y a certains coachs qui ont été super importants dans ta vie.
Oui, exact. Exact. Fait que, mettons, parlons de ça, yeah, puis je vais aller absolument. Jusqu'aux conversations. Fait que, tu sais, si je me perds, là, n'hésite pas. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 9 ans, puis j'ai joué dans un... En fait, j'ai joué au soccer organisé depuis l'âge de 5 ans, tu sais.
C'était quoi tes positions? L'été.
Au basket?
Ouais.
J'étais point guard.
OK.
Mais j'étais pas très bon. Tu sais, comme. J'ai la position de point guard, mais je suis pas un bon point guard. Fait que, tu sais, j'essaie. Mais je suis bon en défense. Donc, je suis un bon défenseur, ce qui est une qualité d'un bon guard. Et je distribue le ballon. Mais, tu sais, comme, je lance pas bien. Je suis pas bon, là. Tu sais,
humble en plus.
Ouais, c'est comme, pas sûr. Mais. T'sais, le fait d'avoir joué dans une équipe, fait que quand j'ai joué au basketball, j'ai commencé dans une équipe sportive officielle à l'âge de 11 ans. Mes coachs ont beaucoup eu un impact positif sur moi. J'ai coaché moi à partir de l'âge de 16 ans. Fait que t'sais, à l'adolescence, 16 ans, c'est quand même... T'sais, je vivais ma vie d'adolescent, mais quand je coachais, j'étais l'adulte responsable de jeunes, t'sais. Puis j'ai fait ça pendant près d'une 10 ans.
Ce qui est aussi très bon pour un ado, t'sais. Personnellement, j'ai coaché aussi du flag football à mon école secondaire. Puis en effet, de commencer à coacher à 16 ans, ça te responsabilise, ça t'aide à communiquer, exact. Te faire comprendre, respecter aussi, t'sais, les enfants, guillemets, ou les kids que tu coaches. Les traiter d'égal à égal, t'es en position d'autorité, mais t'es pas au-dessus d'eux autres.
C'est exactement ça. Puis ça, c'est exactement l'esprit dans lequel je coachais, tu sais. Puis d'apprendre ça jeune, ça c'est utile pour la vie en général après, dans les contextes de travail, dans la famille, dans les contextes de groupe d'amis, tu sais. Fait que ça a été fondamental dans mon parcours. Puis j'ai été moniteur de camp de vacances aussi pour des jeunes de la Pointe-Saint-Charles. En fait, on est dans le hood là. Fait que des jeunes des environs. Puis dans mon parcours, tout ça avec un regard sur la société m'a mené à la fondation Pour Trois Points. Fait que Pour Trois Points, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on forme des coachs qui interviennent auprès des jeunes, tu sais.
Voilà, puis parce que je sais que tu pratiquais le droit et tu as arrêté ta pratique de droit pour fonder Pour Trois Points. Ta réflexion par rapport à un organisme, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit la meilleure manière de régler ce problème-là ou du moins d'attaquer cette problématique-là qui est l'enseignement du sport aux jeunes dans des quartiers défavorisés, mm-hmm. le meilleur moyen de participer à ce que ce problème-là se règle, c'est via un organisme.
À l'époque où l'organisme a été fondé, je m'impliquais dans des comme bénévole dans des comités, dans les organismes, donc tout ce que je savais. Puis mon parcours d'avocat m'amenait à réfléchir à des structures. Je sais comment je crée un OBNL, j'ai étudié ça, je sais c'est quoi. C'était comme une forme qui était la seule que je connaissais d'implication. Tu sais, c'est pas comme si, comme je le vois maintenant, regarde, il y a du monde qui veut s'impliquer. Ils font des podcasts, ils sont des influenceurs sur le web. C'est pas que ça n'existait pas à l'époque, mais c'était moins présent.
Ouais, t'sais. Absolument.
Là, c'était comme pour moi, je vais faire du bénévolat à travers un organisme qui n'existe pas, fait que je vais le créer. T'sais, c'est un peu weird de même. Là.
Puis quand même aussi, on est loin, dans le sens, on n'est pas loin du droit, mais en termes de salaire peut-être au départ, ou de la perception que les gens vont avoir de ça. Évidemment, quand tu as une OBNL, c'est une perception qui est très positive. Les gens ouais. sont au courant que c'est quelque chose qui se veut positif, mais est-ce que, tu sais, je veux dire, au départ, t'étais-tu seul là-dedans, c'est sûr, là, tu sais,
Oui, c'est ça. Au départ, puis peut-être une petite précision, c'est que moi, j'ai quitté la pratique du droit en 2013. Donc, j'ai fait okay. 2007 à 2013, puis j'ai fondé Pour Trois Points en 2011. Fait qu'il y a une période où je faisais ça bénévolement, sans ouais. savoir que ça allait devenir une job à temps ouais. plein, tu sais. Puis, j'ai mobilisé un groupe d'amis qui étaient des amis qui avaient fait du sport avec moi, qui avaient coaché, toute une gang de professionnels qui étaient en droit, en comptabilité, en finance, en marketing, mais qui avaient tout le comme bagage personnel, l'importance du sport, du coach.
Ouais.
Puis c'était le premier conseil d'administration de l'organisation. Puis on était un groupe de bénévoles, on faisait ça. Puis moi, j'ai comme... c'est comme en anglais, on dit « grew on me », c'est devenu « oh wow, j'ai le goût de faire ça plus ouais. ». Fait que ça m'a mené à m'investir là-dedans. Fait que il y avait pas, à ce moment-là, une solitude. On était une gang, c'est pas une solitude.
Okay.
La solitude est venue surtout quand je me suis rendu compte que j'étais dans un entre-deux. Je me disais « ben ma job d'avocat que je trouve correcte, elle me fait pas tant triper. » Puis le rôle que j'ai bénévolement, je voyais pas à ce moment-là le potentiel d'en faire un emploi. Tu sais, fait que j'étais comme dans une espèce de paradoxe, puis ça a duré 2 ans, de 2011 à 2013. J'ai passé proche. En fait, j'étais pas en dépression, c'est une déprime, une profonde mm-hmm. déprime, là. Mais j'étais comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? Comme les parents, tes parents haïtiens, là, qui payent tes études, puis que t'es devenu avocat, tu vas pas leur dire, genre. Ouais. Je vais devenir...
Est-ce que tu sentais une pression de la part de tes parents? C'est parce que, mettons, mon meilleur ami est avocat.
Ouais.
Il a étudié en droit d'origine syrienne. Ses parents ont tout quitté pour le plus grand sacrifice là, pour leurs enfants. Et évidemment que lui est devenu avocat. Fait qu'il y a quelque chose de très noble et de très rassurant pour un parent immigrant de faire « Ah, oh, mon Dieu, OK, on a fait ça pour
ouais.
une bonne raison. » Je sais que, mettons, mon ami Adib Al-Khalidé, irakien, marocain d'origine, c'était plus complexe à faire comprendre à son père qui parlait pas la langue, il comprenait pas nécessairement le français, il comprenait pas nécessairement c'était quoi être un humoriste, qui faisait en sorte que c'était plus dur à avaler, tu sais.
Mm-hmm.
Est-ce que toi, ça a été quelque chose qui a fait en sorte que tu as peut-être repoussé le moment de plonger à 100% dans Pour Trois Points?
Je me souviens d'une conversation. Moi, c'est très précis. Là. En avril 2013, j'ai fait le choix de m'y mettre à temps plein à Pour Trois Points. Donc, je l'ai dit à mes employeurs, je l'ai officialisé. Je me souviens, on était le 1er janvier 2013. On était chez ma tante. Puis le 1er janvier, dans les communautés haïtiennes, c'est la soupe Joumou. La soupe Joumou, c'est une soupe traditionnelle haïtienne qu'on célèbre pour célébrer l'indépendance d'Haïti.
Soupe Joumou.
La soupe Joumou, c'est une soupe à base de courge.
Yeah.
On était en famille. Puis j'avais mon ordi parce que j'écrivais mon dossier de candidature pour un programme de soutien aux entrepreneurs sociaux, un programme américain. Qui était super, super sélectif. Puis la date de dépôt était, je pense, le 4 janvier, comme 3 jours plus tard. Fait que j'avais comme... Puis c'était important pour moi parce qu'à ce moment-là, je me voyais pas devenir entrepreneur ça à temps plein. Mais je me disais, si j'ai cette bourse-là, je le fais. Mais c'est une bourse que comme une personne sur 1000 reçoit à travers le monde. Fait que c'est comme... Les chances étaient très, très petites.
Ouais.
Mais quand j'écrivais mes réponses à la bourse, au dossier de candidature, ma famille me demandait « qu'est-ce que tu fais? » T'sais, on est en famille, le 1er janvier, temps des fêtes, avec ton ordi, tu sais.
Ouais.
Puis on a eu une conversation sur ma volonté de quitter la pratique du droit. Puis pour moi, c'était tellement théorique parce que ma porte de sortie, c'était une affaire qui a une chance sur 1000. Sinon, je demeurais avocat. Mais donc, on a eu une conversation de famille théorique sur comme la pertinence que je quitte le droit. Puis mes parents mon père était particulièrement inquiet, puis je le comprends, tu sais, ouais. Pas très crédule de comme ce choix-là. Puis mon frère et ma cousine, je m'en souviens, ils me baquaient à 100%. Tu sais, mon frère et moi, on est comme très, très proches. Puis mon petit frère, j'ai deux frères.
T'es le plus vieux?
Puis le milieu.
Au milieu.
Ouais, je suis le milieu. Mon petit frère, il a même sorti ça. On n'a pas le footage, je pense pas. On l'a peut-être perdu, mais il a sorti son sel parce que mon père disait des choses, puis il a sorti son sel. Il a fait « Répète ce que tu viens de dire là parce que tu vas le regretter. tu vas le regretter. » Mon père, il a pas osé. Il était comme... Mais il y avait genre autant justement ma cousine, mon frère qui était comme « Check, Fabrice, il est cool, là. Il va être correct, là. » Puis mes parents, ils me disaient que leurs inquiétudes sans savoir que 4 mois plus tard, j'allais vraiment quitter, tu sais. Puis pour la petite histoire... ce processus-là de rédaction que j'ai fait, c'est des questions super personnelles sur pourquoi je veux devenir entrepreneur social. Puis rendu en avril, en fait, dans le processus, je me suis rendu en finale. Il y avait des entrevues à New York. J'ai pas été sélectionné, mais j'étais comme dans les un sur mille.
Ouais.
J'étais probablement genre...
Les cinq derniers.
Ouais, j'étais vraiment à quelques candidatures d'être dans le 1 sur 1000.
Incroyable.
Mais ça m'a tout donné la confiance de faire mon choix en avril parce que je me suis dit, à travers les questions qui m'ont été posées, des questions genre... je me souviens, c'est comme, quel héritage tu veux léguer à la société?
Wow.
Là, j'étais comme, ben moi, je sais même pas... comme, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, mais de me poser la question, de répondre à une demande, c'est quoi l'héritage? Tout ça, je me suis dit, en faisant ça, j'ai fait, OK, non, ma place, c'est de faire le choix de quitter la pratique du droit, puis de me consacrer à ça. Fait quand est venu
c'était
la conversation...
Est-ce que je te coupe, mais c'était quoi la réponse à l'héritage que tu veux léguer à la société?
De mémoire, ce que j'ai répondu, c'était l'épanouissement des jeunes et de leur famille. C'était vraiment ça. Les jeunes et leur famille en milieu défavorisé. Fait que c'était au-delà du sport. C'était comme moi, j'aimerais que les jeunes et leur famille, peu importe leurs origines, peu importe leur niveau de richesse, puissent s'épanouir. Fait que c'est ça qui me porte. Fait que ce qui est très proche de ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
Puis finalement, en répondant à ça, c'est ça l'affaire. Parce qu'en répondant à ça, là, un coup, je l'ai écrit. J'étais comme, OK, mais c'est quoi le rapport d'être dans un bureau sur Sherbrooke, coin Metcalf, 27e étage d'un bureau en soute? Ça n'avait plus de connexion.
Ouais.
Fait que c'était rendu clair pour moi. Fait que toute ma déprime, c'est là que j'en suis sorti un peu à travers, entre autres, ce processus-là. Il y a eu d'autres personnes à qui j'ai parlé, ouais. Des mentors, des gens à qui j'ai... des livres que j'ai lus, mais c'était le point culminant. Puis quand quand on était rendu, que j'en ai parlé à mes parents, vu qu'il a été préparé le 1er janvier 2013,
ouais.
Rendu en avril 2013, je pense qu'il était comme, OK, fais ce que tu veux, c'est cool. Il était préparé. Moi, j'étais clair dans mon choix, puis je l'ai pas regretté une seconde. Quoique j'ai eu très peur de l'annoncer à mes boss. J'ai dit, mes boss, c'est vrai, j'utilise jamais cette expression-là, mais mes patrons, là, j'ai eu peur de leur en parler. Puis aujourd'hui, tu sais, personne remet en question ce choix-là à ce moment-là. J'ai pas oublié les conversations.
Non,
mais pour 3 points, ça a été ce mouvement-là. Puis c'est fascinant comment des fois les choix de même qui peuvent être terrifiants à un moment donné deviennent des évidences un moment plus tard.
Absolument.
C'est ça de se réinventer continuellement.
Mais puis après ça aussi, c'est que c'est le genre de décision qu'on dirait que je peux comprendre que ça t'a mis dans une déprime pendant 2 ans parce que c'est le genre de décision qui... Peut-être aussi que tu avais besoin de te rendre jusqu'à 2013 pour faire ce move-là. Peut-être que peut-être que les lectures qui t'ont aidé à prendre cette décision-là, les gens à qui t'ont parlé, la conversation avec ta famille le 1er janvier, déposer ta candidature pour ce genre d'affaires-là, c'est tout un cheminement qui
exact.
T'a amené à être prêt à assumer ce move-là, puis probablement aussi le faire exactement pour les bonnes raisons,
exact.
Ancré dans des vraies affaires qui résonnent en toi. Là.
Exactement. Je me souviens... Des personnes comme Daniel Germain, le fondateur du Club des Petits Déjeuners. Si je retourne, je me souviens même, c'est novembre 2012, là, comme je backtrack ouais. dans le temps. Il m'a regardé, on s'était rencontrés, puis c'est la première fois que je le rencontrais. Il m'a juste regardé, puis il m'a dit on change pas le monde à temps partiel, à un moment donné, il va falloir que tu quittes ta job.
Ah ouais, hein?
Ouais. Juste, j'ai comme, pourquoi tu me dis ça? Je voulais pas l'entendre, mais lui, il était comme... Parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas comme... Tout le monde veut contribuer à la société comme qu'ils veulent. Mais lui, il me voyait, puis il était comme, toi, man, genre, perds pas ton temps, là. Quitte ta job. Puis
vas-y.
Je suis comme, man, comme... Je voulais entendre quelque chose d'autre, tu sais. Il m'a comme forcé, tu sais. C'est comme un des gars que... Ouais, il m'a forcé. C'est vraiment... Je me souviens quand il m'a dit ça, là. C'est mot à mot, c'est ce qu'il m'a dit. On change pas le monde à temps partiel. Il va falloir que tu quittes ta job.
Wow! C'était genre...
Non merci, tu sais. Merci, mais non merci, ouais. Tu sais.
En même temps, c'est quand même flatteur, tu sais, que quelqu'un de... Comme lui, tu sais, ce qu'il représente, ou tu sais, avec le club des petits déjeuners, probablement que pour toi aussi, inconsciemment, c'est quelqu'un à qui tu look up to un peu, du moins, là. J'aime toujours ça quand quelqu'un te donne un conseil ou qui peut sembler comme une attaque, ça veut aussi dire que la personne t'estime énormément.
Tout à fait. Tu sais. Oh, tout à fait. Puis j'ai eu l'occasion de lui reparler de ça, puis c'est ce qu'il nommait, tu sais, il était comme je crois en ce que tu fais, je supporte, puis il me lâche pas. Il y en a une couple des gens comme ça, puis tu sais, je crois fondamentalement au pouvoir justement des gens qui ont de l'influence, c'est le coaching, le mentorat, c'est un peu un élément clé. Puis un moment donné, on s'est parlé au téléphone il y a quelques années, puis il m'a dit Fabrice, il faudra que tu changes de game là, parce que c'est un contexte où je lui parlais de choses qui étaient très terrain, puis j'avais pas d'implication. Comme un entrepreneur social, c'est pertinent pour avoir le plus d'impact des fois d'avoir des interactions avec le milieu politique, par exemple, tu sais, pour ouais.
faire
entendre la cause, que le travail soit institutionnalisé. Puis tu sais, c'est des catchphrases, c'est comme faut que tu changes de game, man. Moi j'étais comme tu sais, comme je vais arrêter d'être sur le terrain, mais ça demande un effort additionnel de bâtir une organisation, puis fait qu'il est très challengeant de cette manière-là. Fait que je trouve ça le fun.
Puis j'imagine aussi que ça résonne en toi dans le sens que autant que tu dis que sur le moment, tu le reçois pas durement, mais c'est un peu comme oh attends là, tu me demandes beaucoup.
Ouais.
Puis que comme tu disais tantôt, des mois plus tard, ça semble une évidence une
exact.
Fois que t'as fait le move. T'sais.
Exact. Puis je crois en ça, la question d'être à l'écoute de soi. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on développe peu dans nos écoles. On est très dans un savoir cognitif, puis de savoir des connaissances qui vont nous permettre de produire des choses. Mais la vie, c'est d'être des humains complets, tu sais. Puis là, je reviens dans toute cette historique-là, dans la trame narrative. Quand je suis arrivé, je parlais du 1er janvier 2013, je pense que c'était le 7 janvier 2013, j'étais de retour au travail. Ça faisait 5 ans que je pratiquais le droit. Puis, à un moment donné, dans un cabinet privé, il vient le moment où on doit développer la clientèle pour devenir un associé d'un bureau, tu sais, devenir un peu un propriétaire du bureau.
Ouais.
Fait qu'on m'a envoyé un document qui me demandait d'écrire mon plan des 3 prochaines années, savoir comment j'allais me projeter pour devenir associé. Je suis tombé malade. J'ai lu ce document-là. Puis mon corps, comme, il était pas capable de réconcilier, de dire, je n'étais même pas capable de physiquement faire ça, me projeter. Fait que je suis tombé malade, j'ai pris quelques jours de congé. C'est un méchant rhume, là, mais rhume, ouais. Presque grippe. Puis ça a été un signal pour moi. J'y reviens parce que c'est comme toujours ces moments-là qui sont comme des chocs,
ouais.
Autant les phrases que le corps qui lance des messages.
Ouais.
Ça me porte à... moi, je pense que c'est important d'écouter ça, mais on n'est pas outillé à ça. On est très peu outillé à... Mais on apprend à lire, écrire, compter, puis on n'apprend pas à être présent à nous-mêmes, d'être présent à l'autre. D'ailleurs, c'est vrai parce que je n'arrête pas de penser aux conversations, mais c'est important parce qu'il y a un lien avec ça. Tout mon parcours de formation de coach auprès de Pour 3 Points, m'a mené à étudier le coaching, d'avoir une certification en coaching, en développement de l'humain de manière holistique, disons.
Tu vas chercher ça où, cette formation-là?
Alors, cette formation-là, moi, je l'ai faite auprès d'une école qui s'appelle Convivium, qui est une branche francophone d'une organisation qui s'appelle New Ventures West aux États-Unis. C'est une des plus anciennes écoles de coaching dans le monde, qui a des branches un peu partout dans le monde. Et coaching veut tout et rien dire. Hein. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, mais... En gros, un coach, c'est une voiture. Le coach, c'est la voiture du 12e, 13e siècle, je pense, en Europe, qui amenait les gens d'une place et les marchandises d'une place à l'autre, c'est un véhicule. Mais quand on parle de coacher, c'est de accompagner quelqu'un d'une place à l'autre. Les autobus de marque coach.
Ouais.
Fait qu'un coach, c'est ça. C'est ça le mot. C'est de guider quelqu'un ou de permettre à quelqu'un de véhiculer. C'est juste un véhicule.
J'adore.
Fait que, l'approche de coaching que j'ai apprise, c'est une approche qui, justement, est basée pas tant sur dire à quelqu'un quoi faire, mais de soutenir une personne vraiment au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, puis de voir plus large que faudrait je te donne un truc pour
bien lancer un ballon.
Mais là, puis là, j'en suis dans le coaching personnel. Hein.
Ouais.
Ouais, ouais.
Okay.
Puis comment cette approche-là, coaching personnel, professionnel, donc j'ai les compétences pour accompagner, par exemple, des dirigeants d'entreprise, mais comment ça se transpose en contexte de sport? Fait que mm-hmm. l'esprit pour trois points, comme par exemple la semaine prochaine, on va être dans une retraite en nature, on est vraiment dans... Commence par écouter toi, accompagne les autres, donc écoute les autres, prends conscience de l'environnement dans lequel tes jeunes y sont, puis oui, il y a un aspect technique, mais c'est vraiment le côté très humain qui est présent.
Fait que là, dans le fond, vous êtes en retraite avec des coachs.
Avec des coachs de sport.
C'est ça.
Ouais, j'ai mélangé beaucoup de choses, là, parce que j'ai fait le contexte pour trois points, qui, dans le contexte sportif, a ouvert ma curiosité au coaching dans ce sens humain.
Ouais.
Je suis allé étudier ça, puis je continue à étudier ça. Et je le ramène dans le contexte de pour trois points.
OK, voilà.
Et en même temps, et là, c'est ça qu'on. C'est vraiment ça, c'est un retour du balancier. Je me suis dit, finalement, c'est quoi du coaching? Je suis allé l'étudier de façon plus large, puis je le réinvestis dans le contexte de pour trois points pour que des coachs de sport de 18, 19, 20, 21 ans aient une approche qui est un peu dans cette philosophie-là, qu'on appelle une approche un peu plus humaniste.
Ouais.
Et dans mon travail pour revenir à Nicolas Ouellet, pour revenir à nos sociétés, c'est aussi ce qui informe ma posture dans les conversations. Tu sais, il y a des auteurs comme je pense à une Marie-Ève Marchand qui est une coach qui est de la même communauté de coachs que moi qui a écrit un livre qui s'appelle Le dialogue à l'ère du texto. Et elle parle justement de comment elle fait des formations sur le dialogue et elle parle de comment on est beaucoup dans une ère où on est au débat. Conversation, en fait, à la discussion rapide, elle fait la distinction entre une discussion où les gens sont plus en confrontation par rapport à la conversation. La conversation, c'est plus une rencontre de l'humain. L'intention.
Je devrais changer le titre de mon podcast pour Dieu du temps converse.
C'est exact.
Oui.
en fait, selon ce que dirait Marie-Ève, elle serait là puis elle dirait ouais, on fait pas une discussion, on fait une conversation.
J'adore avoir la différence.
Puis je suis pas un expert de ces nuances là parce que dans son livre, je me souviens, il y a ça comme conversation et dialogue, c'est un peu similaire, puis discussion c'est autre chose, discussion débat c'est autre chose. Mais j'ai eu un échange qui va paraître dans le magazine Nouveau Projet avec une militante d'expérience s'appelle Lorraine Gay. Et c'était cool parce que on nous a amené sous le thème du dialogue à faire une correspondance par écrit. Puis on co-construisait sur le thème de l'engagement. Puis je lui ai parlé de cette distinction-là. Puis elle m'a répondu en disant, mais c'est important la discussion aussi.
Ouais.
Fait que c'est pas que la discussion c'est mauvais, la conversation c'est bon, mais je pense que les deux sont nécessaires. Mais ce que Nicolas amène comme sujet, je n'étais pas là quand il parlait, j'ai pas entendu l'épisode, mais l'idée que dans les médias, il y ait de la conversation, je trouve que c'est important. Parce que la conversation, ça demande aussi de se dire, j'ai pas peur de ce que je vais dire, puis d'avoir l'air d'une manière de pas avoir raison. Non, justement, on va dire comment on se sent, on va dire des trucs qu'on dirait pas en ondes, on va accepter que la personne nous ouvre une autre perspective. Mais il y a tellement une posture de... C'est quoi le risque si je dis quelque chose qui fonctionne pas dans les médias, que tout le monde se braque, puis que là, on est tous dans une posture, on est en superficie dans qu'est-ce qu'on se dit. Puis on descend pas dans... Finalement, tu te sentais comment quand tu disais cette affaire-là? Tu sais, un politicien qui, des fois, dit « je m'excuse », qui dit « j'avais pas compris telle situation, j'ai fait une erreur », ça manque des fois. Tu sais, ça manque.
Ouais, ben c'est que souvent aussi, quelqu'un qui va changer d'opinion, quelqu'un qui va dire « je me suis trompé », au lieu d'applaudir ça, de voir l'éducation que la personne vit sous nos yeux, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme une faiblesse ou
ben oui.
Et je trouve que dans les derniers mois, avec tout ce qui se passe, autant au niveau de la pandémie que le Black Lives Matter, que la vague de dénonciation, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ce que j'en retiens le plus, c'est le à quel point il y a une défaillance au niveau de la communication à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce genre de conversation-là qu'on a, toi et moi, je les souhaite à tout le monde. Puis moi, j'ai la chance. Le podcast m'a éduqué à ce niveau-là, vraiment beaucoup, qui fait que je suis beaucoup plus calme dans des conversations. J'écoute mieux. Puis je réalise que mes parents, qui sont pas nécessairement la crowd type du podcast, vont l'écouter. Et je pense que mes invités les éduquent aussi par la bande et m'éduquent par la bande et qui font en sorte qu'on est capable d'avoir des conversations qui peuvent sembler sur des sujets qui sont plus touchés ou whatever, mais on demeure calme.
Ouais.
On échange. Et je trouve que ça manque énormément. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont difficulté à changer leur fusil d'épaule. Et moi, le premier. Tu sais, je veux dire, c'est dur de dire « Ah, je savais pas où je me suis trompé. Ouais. » Ou « T'as raison. »
Exact. Si je m'assois sur certaines théories, là, sans trop entrer dans la théorie, il y a une question identitaire parce que le fait de... Si c'est un peu naturel, si tu penses quelque chose, c'est que tu tiens à une opinion. Puis le fait d'être contredit sur cette opinion-là est quand même rattaché en partie à une forme d'identité personnelle. Fait que du moment où quelque chose que je pense, que je crois est déconfirmé, c'est que c'est une partie de moi qui est plus... que je protège, finalement, ouais. Qui est plus tout à fait vrai. Fait que c'est comme un retour, tu sais, c'est quand même assez théorique ce que je dis là.
Mais je comprends ce que tu
dis. Tu sais, si je crois toute ma vie, je vais aller très, comme un peu ésotérique.
Ouais.
N'hésite pas là, de me dire, Fabrice, tu racontes n'importe quoi.
Je te suis, mon gars.
Mais tu sais, si je crois, je veux être une bonne personne, puis je crois toute ma vie que... si on prend la question, par exemple, des inconduites sexuelles, puis je me suis continuellement construit l'idée que j'ai toujours eu des comportements corrects, mais que tout d'un coup, il y a comme une vague qui remet en question le fait que j'ai toujours été correct, puis que finalement, je suis appelé à faire une introspection sur à quel moment j'ai eu un comportement ou à différents degrés, créer une violence chez l'autre, c'est dur de faire ce retour-là.
Absolument.
Puis de prendre... Parce que ça, finalement, c'est dire, je suis peut-être pas une aussi bonne personne que je le pensais.
Ouais.
Moi, là, je le nomme pas pour dire « Ouais, je suis bien fier de moi », mais je pense que tous les hommes, entre autres, dans tout ce qui se passe par rapport aux inconduites sexuelles, c'est important de faire un regard sur « OK, mais à quel moment... » Pas juste dans l'acte sexuel avec peu importe qui, là, peu importe le genre, mais pas juste dans l'acte sexuel, mais dans les conversations, dans les silences, dans les jokes que je fais, dans les jokes que j'ai pas fait, dans qu'est-ce que je consomme. Tout ça, c'est genre important de le faire. Puis je crois même de genre d'en parler. T'sais, même là, maintenant que j'en parle, je sais très bien qu'il y a du monde qui vont faire « Ah, c'est cool », d'autres personnes qui vont faire « Pourquoi ils en parlent ?» Ça devrait être les femmes, par exemple, qui parlent de ça.
Ouais.
Je suis comme prudent d'en parler en disant hey, « Je prétends, puis bon, regardez-moi comment que je parle de ça. » Mais c'est important d'en parler,
ouais.
Parce que sinon, il n'y a pas d'espace pour en parler.
Mais je pense pas que tu... puis encore une fois, je te trouve bon et humble, que tout de suite, t'es comme critique avec toi-même et t'es très conscient, encore une fois, de la chance que tu as d'avoir un micro, peu importe, puis... Mais je pense pas que les gens t'entendent comme étant quelqu'un qui se flatte dans le sens du poil.
J'ai une forme de prudence à comme être le gars correct.
Ouais, je comprends.
Oh, ouais, puis, ben, parce que c'est des sujets délicats.
Ouais, absolument.
C'est les déposer puis les mesurer. Parce que moi, je pense que... Tu me parlais de la question de... qu'on parlait de Nicolas. Puis je pense qu'il y a pour moi toujours le défi. Puis ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Du débat public qui fait en sorte que pour un même propos, il y a des gens qui vont dire que c'est too much ou les mêmes personnes vont dire que c'est pas assez.
Ouais.
Fait que de garder cet équilibre-là, il est pas évident, mais c'est quelque chose que j'assume, en fait. Ça fait partie de la vie.
Mais puis c'est pour ça qu'on revient souvent à ce que Nicolas disait, puis il est pas le seul à le dire, mais j'ai trouvé ça pertinent, puis ça m'a ouvert les yeux, on dirait, de faire un peu comme tu disais tantôt, de se donner droit à l'erreur et de qui fait en sorte que des fois, de poser une question un peu maladroite, on est probablement beaucoup de gens à se la poser, cette question-là, et qui fait en sorte que des fois, de juste... Puis je trouve que tu as cette ouverture-là, j'ai l'impression de... tu sais, je me souviens à l'époque de Odebali, quand il y avait des candidates qui avaient eu des propos racistes, t'étais pas... Puis je me souviens que pour toi, quand même, d'accepter l'appel de Julie Snyder et de venir parler publiquement pour éduquer les candidates, pour toi, c'était challengeant aussi. C'était une espèce de position où tu sais, tu parles de prudence. Là, c'est comme, hey, attends, là, est-ce que je suis en train de sauter la ligne? Est-ce que je devrais... Puis je t'ai trouvé courageux et empathique à leur égard parce que t'as pas abandonné le bateau. T'as fait, non, elles font partie du projet collectif. Faut les éduquer.
Tout à fait. Tout à fait. Puis c'en est un exemple de cas où le même acte, la même situation a généré de l'appréciation et de la critique dans qu'est-ce que je vis. Je me souviens à ce moment-là, ça a été un des premiers moments où j'ai fait, OK, pour la même chose, comment je me situe? Parce que ça, les deux sont venus, mais en bout de ligne, je suis fier de ce moment-là parce que c'est un moment où on a parlé d'enjeux liés au racisme. Je suis pas fier de l'incident.
Non.
Je suis fier de l'opportunité de parler d'enjeux racistes dans une émission, tu sais, OD, t'es en plein dedans, dans une émission où c'est pas quelque chose qui est naturel de profiter de l'occasion pour parler d'enjeux sociaux. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Puis si on prend cette situation-là, tu sais, quelqu'un qui dit, je vais pas répéter qu'est-ce qui a été dit, mais qui tient des propos racistes, puis qu'on soit ferme par rapport à ça, et en même temps qu'on comprenne que ça, on est des humains. Si on se cancelle, là, le fameux cancel culture, si on se cancelle, on se condamne à tout jamais, ben ça aide personne. La possibilité de rédemption doit exister. Mais ça, c'est un équilibre délicat parce que finalement, à quel moment est-ce qu'on permet à quelqu'un d'être réhabilité?
Ouais, voilà.
C'est super important en ce moment par rapport aux inconduites sexuelles dont on parlait tantôt. C'est OK. Quelqu'un commet un acte, là on est dans un mouvement où on jette le monde à la poubelle comme si là c'est du monde qui était des moins que rien. Comment est-ce qu'on tient l'équilibre de sanctionner l'acte que ce soit privé ou de manière avec le public, avec des systèmes publics qui sont pas à la hauteur parce que c'est trop rigide. Là je parle du système pénal par exemple par rapport au processus de plainte. Comment est-ce qu'on fait ça en étant aussi présent à la victime, parce que le système pénal n'a pas pour fonction de soutenir les victimes. Fait que c'est pas ça l'objet même. Fait que comment qu'on soutient les victimes, c'est vraiment... Puis là, tu sais, je vais rendre mon chapeau de juriste, qui a littéralement pas de lien entre le soutien à la victime puis la condamnation, à part de dire la personne est allée en prison, ce qui est une satisfaction.
Ouais.
Mais comment est-ce qu'on crée des systèmes qui soutiennent les victimes? Ça, c'est une autre question. Puis comment dans la sphère privée, parce que quand ça se rend pas dans ces systèmes-là, puis on a vu les vagues sur les réseaux sociaux, comment les systèmes qui sont, mais par exemple, les agences qui soutiennent ces personnes-là comme les gérants d'artistes ou quoi que ce soit, comment faire en sorte que ce soit eux ou d'autres qui disent « bon, on soutient la réhabilitation », parce qu'à un moment donné, la personne, il faut la condamner, mais elle a des problèmes aussi. Puis comment ces systèmes-là, quand eux autres aussi ont contribué, se tiennent responsables? Fait que là, j'ai nommé, je pense, comme 5 ou 6 trucs layers de comment il faut aborder l'enjeu. Puis je trouve que, à travers tout ça, c'est hyper complexe, mais je pense que le point de départ... Et là, je parle.
On jase.
Ouais, mais le point de départ, c'est au moins d'honorer qu'il y a des victimes qui parlent. Puis là, c'est comme, on vous croit, là... Comme on vous croit,
Absolument.
Partons de là, c'est pas les victimes qui parlent le problème. Elles le vivent.
Oui.
Puis là, c'est comme comment est-ce que nous, on aborde tous les enjeux, nous comme société, là, pas juste nous deux, mais.
Ouais, absolument. deux boys dans un studio, tu sais.
Ouais, mais comment comme société, on fait OK, on est très ferme avec la personne, l'agresseur, on sanctionne, on réhabilite, on prend soin. C'est vraiment un problème, un enjeu complexe. Puis ça, c'est vrai dans bien des problèmes.
Puis je pense que ça revient à ce qu'on disait, c'est que tout ça débute par une conversation. Puis c'est la raison pour laquelle je pense que faut encore, tu sais, surtout dans le contexte des dénonciations publiques, je trouve que l'attention est beaucoup portée vers l'agresseur. Puis je comprends pourquoi, parce que souvent, c'est la personne connue qui va tomber, puis il y a quelque chose de... je sais pas, il y a quelque chose d'attirant à l'œil, je comprends pas, puis j'essaie toujours... Moi, je me concentre beaucoup plus sur la victime, de penser à elle, de penser à sa famille, de penser, tu sais, à quel point ça doit... Tu sais, je peux même pas m'imaginer ce que ça fait en dedans de faire... Ça fait des années que je me sens pas bien avec ma confiance en moi, avec mon corps, avec ma sexualité, au rapport à l'autre, la confiance en les autres. Okay. Et là, soudainement, de par l'ouverture, de par... Je partage un témoignage qui est vraiment difficile à partager de ma part. Et que là, soudainement, c'est l'agresseur qui a peur. C'est l'agresseur qui se remet en question. La victime reprend le bon bout du bâton. Et faire, je peux même pas m'imaginer la satisfaction de faire « Fucking right, là, c'est toi qui as peur maintenant.
Ouais.
C'est plus moi.
Ouais. »
Et de faire « Je comprends. » C'est pour ça que c'est important de les écouter, les victimes aussi, parce
exact.
Que c'est comme « Ça part de loin. »
Exact.
Il y en a que ça fait longtemps, il y en a que ça fait plusieurs événements et tout ça, et qui fait en sorte aussi que faut saluer ce courage-là. Et c'est grâce à ces personnes-là que le mouvement
exact.
Est entamé et que le mouvement avance. Tu sais, mais après ça, oui, je pense aussi par la suite, en deuxième, aux agresseurs et aux agresseuses, et j'essaie de revenir à l'être humain, de faire comme c'est quoi le but?
Exact.
C'est quoi le but de la société? Puis c'est pour ça que je te trouve bon aussi, parce que j'ai l'impression que t'abandonnes. Moi, ça m'est arrivé récemment, là, je l'ai compté dans un autre podcast, mais d'être en conversation avec des gens que je connais pas, puis que rapidement, je fais ces gens-là, je les aime pas. J'aime pas comment ils pensent, j'aime pas les jokes qu'ils font, j'aime pas. Je suis pas d'accord avec rien de ce qu'ils disent.
Ouais.
Et. Bon, c'était un contexte, tu sais, je suis sur une terrasse avec un ami, peu importe, puis finalement, on se met à jaser avec ces gens-là, puis rapidement, je fais, hey, je peux pas, puis c'est même pas par rapport à moi qui ai connu, mais je veux pas être vu avec ces gens-là. Je suis choqué, je suis pas bien, je me sens physiquement pas bien, je veux juste quitter la pièce. Et après ça, j'ai fait, est-ce que j'aurais dû fighter un peu plus? Est-ce que j'aurais dû essayer de les éduquer, essayer de les amener avec nous? Ils font partie du projet collectif. C'est quoi le but, tu sais?
Ouais, c'est une énorme question. Puis là, tu sais, on jase, puis dans ma vie, il y en a beaucoup du monde qui... tous les jours, c'est comme tous les jours, il y a du monde qui vont m'irriter, puis
ouais.
Cette personne-là, ça... Je pense que de pratiquer une forme de compassion, de présence à l'autre, c'est essentiel parce que du moment où on condamne quelqu'un à tout jamais, c'est là qu'on perd notre humanité. C'est le début de la perte de l'humanité. Mm-hmm. Du moment où quelqu'un qui a eu une enfance facile, difficile, qui a souffert, qui veut être heureux, parce qu'à la base, les humains, tout ce qu'on veut, là, c'est moins souffrir puis être heureux. Là. C'est comme si tout ce qu'on veut. Du moment où on décide qu'une personne est un peu plus proche d'être un objet, on dénature qui on est, tu sais.
Mm-hmm.
Mais ça inclut toute la vigueur que ça prend aussi pour dire, tu sais, on doit non pas accepter le fait qu'il y ait de l'argent caché dans les paradis fiscaux, mais c'est quand même des humains qui font ça. C'est comment
ça.
Qu'on deal avec ça.
Mais puis le pire, c'est que la raison pour laquelle moi aussi je me posais cette question-là de faire est-ce que j'ai quitté le bateau trop rapidement, c'est que je suis le premier à prôner l'empathie extrême, d'avoir le plus d'empathie possible pour tous. Je pense que dans tous les cas, je pense qu'on pourrait jamais être trop empathique. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut trop faire, qui fait en sorte que, encore une fois, c'est pour tous et toutes.
Exact.
Puis il y a des gens pour qui c'est fucking difficile d'être empathique aussi, c'est ça l'affaire. Puis c'est peut-être pas la première chose qu'il faut faire, tu sais. Dans l'étape de la réhabilitation du bien-être de la société, tu sais, il y a des gens pour qui il faut être empathique en premier ou peu importe, je sais pas trop, là, je connais pas, je suis pas un professionnel, mais j'arrête pas de me poser ces questions-là, tu sais, puis je trouve que tu sembles du moins bien le faire, tu sais. Puis pour en revenir même au coaching, tu sais, je trouve que ce que j'aime de cet emploi-là, ou du moins de la manière que tu perçois ce rôle-là dans la vie, c'est que c'est un travail beaucoup plus humain que technique.
Exact.
T'sais, c'est beaucoup plus grand que le sport. Un coach, un enseignant. T'sais, un enseignant, c'est un autre titre pour coach. C'est moi, ce qui m'a fasciné des meilleurs coachs ou enseignants que j'ai eu dans ma vie. Un enseignant, c'est plus difficile peut-être parce que t'enseignes à une classe, mais il n'y en demeure pas moins qu'après ça, c'est individuellement. Fait que même si tu as une classe de 25 étudiants, après ça, ils vont poser des questions individuellement. Tu peux pas prendre tout le monde de la même manière. C'est pas juste, c'est pas une recette. Faire moi, je suis le même, puis c'est ça, puis c'est tout. C'est de faire, ben avec Fabrice, faut le challenger un peu plus fort. Jay et Colin, si tu sais, moi je sais que moi et mon père m'a déjà coaché au hockey. Mon père coachait comme lui il aimait se faire coacher.
Ouais.
C'est-à-dire plus dur, plus c'est comme mon père lui tu lui dis hey, t'es pas capable de faire ça ah ouais m'a trouvé le contraire. Moi si tu me dis t'es pas capable de faire ça je vais faire fine, va trouver quelqu'un d'autre qui est capable si moi je suis pas capable.
Ouais.
Alors que après ça c'est juste des différentes personnalités, tu sais.
Tout à fait. Ben le tous les humains sont uniques. Tous les humains ont des similitudes mais on est tout uniques.
Ouais.
Tu sais, j'ai un ami qui dit que les humains sont un mystère inépuisable. C'est ça qu'il dit. Fait qu'en lien avec comme on le saura jamais, là, on sait jamais qu'est-ce que la personne pense. Jamais.
Ouais.
Tout ce qu'on peut faire, c'est se faire une idée de ce que la personne elle pense, puis faire, OK, ben, je vais agir en conséquence. Fait que, tu sais, en éducation, il y a ce que tu nommes, c'est comme on appelle ça un principe de différenciation, finalement. C'est que c'est de différencier une approche en fonction de qui est la personne, puis de faire un retour aussi, tu sais, sur soi-même, parce que finalement, c'est comme, comment aussi éviter de faire une projection, le moins possible de projection sur l'autre. Si c'est, quand tu parles de ton père qui coach comme il est même coaché, lui, il aimait ça, fait qu'il peut bien dire, mon fils, il aime ça, ou mes joueurs, ils aiment ça, mais peut-être pas. Fait que c'est toujours un check-in sur c'est quoi qui est pertinent, tu sais, puis la vérité, c'est qu'on le sait pas. On le sait, comme, ça peut être stressant pour du monde, là, mais on le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'impact positif ou négatif. Mm-hmm. On peut juste avoir une approximation, puis des fois apprendre. Tu sais, moi, j'ai des moments où j'ai dit des choses, puis je pensais que c'était super anodin dans un contexte. Puis une personne revient me voir des mois ou des années même plus tard, dit ce que tu as fait à ce moment-là, c'était comme cool, j'ai aimé ça.
Ouais.
Puis c'est comme ça m'a marqué, puis là, je suis comme, OK, je savais pas.
Ouais.
Mais l'inverse, c'est comme moi, je suis bien fier d'avoir fait tel truc, puis le même acte, encore une fois, ça revient à la même chose. C'est comme le même acte a vraiment dérangé du monde. Là, je suis comme, je pensais que je l'avais à l'affaire. Ouais. Non, pas pantoute.
C'est fascinant, j'ai voyagé avec un ami. Ben, en fait, j'ai rencontré un ami en voyage. Le gars s'appelle Laurent, c'est le frère de mon ami Guillaume. Et j'ai voyagé avec Laurent en Nouvelle-Zélande en février dernier, février-mars. Et c'est un prof de maths au secondaire. Et il me racontait, un peu en lien avec ce que tu viens de raconter, à un moment donné, il est à l'école, puis Laurent, il a une mauvaise mémoire des noms. Fait que pendant l'année scolaire, il va connaître ses étudiants, puis après, souvent, il oublie le nom. Il va se souvenir, ah ouais, toi, à peu près, sans plus, tu sais. Puis c'est pas un manque de respect, il est juste comme ça, tu sais. Et à un moment donné, il vient de finir une classe, les étudiants sortent, puis il voit qu'il y a un ancien, ce qui semble être un ancien étudiant, qui rôde un peu à l'extérieur de sa classe. T'sais. Fait qu'il sort, puis l'étudiant fait Monsieur Gérard, est-ce que je pourrais vous parler? T'sais. Il dit oui, certainement, viens-t'en dans la classe. T'sais. Puis il s'assoit, puis l'étudiant, il raconte que des années avant, quand Laurent lui enseignait, il y avait un très mauvais moment dans sa vie. Puis à un certain moment, à la fin d'un cours, Laurent semblait s'en être rendu compte, fait qu'il avait demandé de rester, puis il avait jasé un peu avec lui. T'sais. Puis l'étudiant, il laisse comprendre que cette journée-là, lui avait décidé que la fin s'en venait. Il voulait s'enlever la vie, puis c'est comme ça qu'il se sentait. Puis que la conversation que Laurent a eue avec lui l'a fait rester en vie. T'sais.
C'est fou, hein?
C'est fou. Il me raconte
c'est
ça.
Vie ou de mort, là.
C'est incroyable. Fou. C'est grave, là. C'est important comme moment. Laurent se souvient pas de l'étudiant. Se souvient même pas du moment. Un peu comme tu dis, pour lui, ça semblait juste humain, anodin, simple, évident. La même semaine, Laurent tond son gazon chez lui et il y a un ancien étudiant qui passe devant chez lui. « Hey, je vous reconnais, M. Girard, oui, vous m'avez enseigné. » Puis là, ils se mettent à jaser. « Ah, cool, puis ça. » Et cet étudiant-là, cet ancien étudiant-là, il dit « Aujourd'hui, vous avez l'air bien smart. À l'époque, j'étais pas capable de vous sentir.
Ah, ouais,
ça fonctionnait pas pour moi. » Puis c'est là où, comme tu dis, Laurent, la même semaine, il dit « Je me suis senti comme le meilleur enseignant au monde et le pire à la fois. » Et que ça revient, encore une fois, à « C'est individuel. »
C'est toujours individuel. C'est individuel donc dans la manière dont on interagit. Puis aussi, je pense, une conscience du contexte dans lequel on est. Puis c'est un effort collectif de tout le monde faire ça. Tu sais, moi, dans le contexte de Pour Trois Points, on explore des nouveaux modèles de gestion qu'on appellerait peut-être de l'autogestion, disons, qui font en sorte qu'on va beaucoup plus aller vers l'intelligence collective, voulant dire que ça fait lien avec la conversation. C'est qu'on place des espaces de conversation pour maximiser les moments où on se questionne sur c'est quoi le contexte dans lequel on est, puis c'est la conversation continue. Puis il y a du monde qui serait avec nous là, qui dirait que c'est une perte de temps. À toutes les 6 semaines, on se rend compte, on appelle ça les Fire Festivals. Fait que là,
est-ce que ça a lieu ou c'est annulé?
Ça a lieu, mais peut-être pas. Écoute, là, des fois, j'ai l'impression que quand je parle, je vais dans des trucs qui sont vraiment ésotériques, mais je vais arriver au Fire Festival. C'est vraiment... Moi, j'ai bien du fun dans le contexte de Pour Trois Points. Là, c'est qu'on a... On a dans nos meetings, dans notre organisation, des meetings de feu de camp. C'est des meetings d'affaires courantes. C'est comme qui va aller, arroser les plantes au bureau durant la pandémie, par exemple. Ou qui va amener les plantes chez eux. C'est très opérationnel. On en a à toutes les 2 semaines. Puis on appelle ça feu de camp parce que je pense qu'à un moment donné, on a un bureau, un espace ouvert, puis... Quand, à un moment donné, on avait cette pratique-là de se dire, quand on se rassemble, on fait un feu de camp. Fait que là, on dit, OK, cool. Là, on a des meetings qui s'appellent, c'est plus des meetings de gestion, d'ordre stratégique, qui sont des meetings qu'on appelle des méchouis. Fait que là, c'est comme we're cooking, you know? les meetings stratégiques, c'est plus des questions d'ordre stratégique. Puis ça, dans les organisations, on voit ça. C'est-à-dire des meetings qui visent ces deux niveaux-là de conversation. Puis, ce qu'on voit moins, qui est selon moi manquant, c'est les meetings où les gens qui sont, surtout les gens qui ont le plus de pouvoir, s'encouragent à dire « ce que je pense qui est important, je le sais pas vraiment. » Et on s'ouvre tout le monde ensemble sur c'est quoi le contexte dans lequel on est. Puis, on se questionne sur le contexte. Puis, juste là, mettons, qu'est-ce que pour 3 points? On pourrait se poser la question en groupe. Là, tous les jours, on aurait toute une réponse différente, individuellement et collectivement. Fait que c'est un acte de conversation continue, cette question-là. Fait que ces meetings-là qu'on appelle les meetings de contexte, on les appelle les Fire Festivals en référence au Fire Festival, mais on a mis un « i » à la place du « y ». Puis, finalement, c'est les meetings de 4 heures où on n'a pas d'agenda. Fait que t'imagines, il n'y a pas d'agenda, ça dure 4 heures, on arrive là, puis on est comme... Là, on les fait sur Zoom, là. Mais puis à un moment donné, c'est comme on pourrait passer un 30 minutes à ne pas parler. Puis à un moment donné, c'est comme pourquoi personne parle? On se questionne pourquoi personne parle. Mais là, on va partir dans quelque chose qu'il y a du monde qui dirait c'est une perte de temps, cette affaire-là. Mais pas, moi, j'y crois. Je pense que c'est pas une perte de temps, c'est un exercice de conversation pour parler en continu qui fait en sorte que des fois, il y a des affaires qui sortent, qui sont une perception que quelqu'un avait au sujet de l'autre, puis on se questionne continuellement sur le contexte. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace dans nos sociétés pour ces genres d'échanges-là. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, là, t'es arrivé, tu m'as jamais dit si on allait parler de quoi. Tu m'as jamais donné d'ordre du jour. Non. On fait juste jaser. T'sais, c'est pas encadré. Il y a un ingrédient qui est un peu de l'ordre. On s'en va nul où là-dedans dans cette conversation-là. Et c'est cool. Moi, j'apprécie ce genre de conversation-là.
Il y a quelque chose aussi, je pense, de ce genre de conversation-là qui aussi, j'imagine, en contexte d'organisme ou d'entreprise, comme c'est un espace libre, inconsciemment, on se rend exactement là où on a tous envie d'aller, peut-être?
Oui. Je pense qu'on augmente les chances. En fait... Je pense qu'il y a un auteur qui s'appelle Emmanuel Godot. Son livre s'appelle La conversation ou Les conversations. Je ne l'ai pas lu. C'est un de mes amis qui m'en parle. Fait que je me souviens même de quotes spécifiques. Puis il parle de la conversation, puis il en réfère en disant c'est qu'on part de n'importe où et on s'en va nulle part.
Wow.
Fait que c'est quand même. Fait que dans l'idée d'aller quelque part, c'est qu'on ne va pas quelque part. L'acte d'aller quelque part, c'est la conversation. Fait que c'est comme. On s'en va où? C'est quoi l'objectif qu'on a atteint? Mais on a parlé. Fait que l'objectif, il est atteint parce qu'on a parlé ensemble. Fait que oui, ça augmente les chances. T'sais, quand on revient à nos méchouis puis nos feux de camp, ça nous oriente mieux, là. C'est sûr. Ça nous aide mieux dans notre mission. Mais il y a un acte infini qui est juste de vivre ensemble. Fait que, tu sais, mettons, la démocratie, c'est ça, finalement. T'sais, ce serait malade, là. À l'Assemblée nationale, là, si les 125 députés faisaient ça, ce serait hot.
Ouais.
Ce serait cool, parce que ce serait comme, OK, on est ensemble, mais pourquoi qu'on est là ensemble? On n'est pas en train de se... Puis oui, des fois, on peut se challenger, mais on se questionne sur pourquoi qu'on est là ensemble. Puis il pourrait avoir bien des questions à l'Assemblée nationale qui seraient comme, ah, mais... Pourquoi est-ce qu'on est tous de la même classe sociale, par exemple, ou majoritairement la même classe sociale?
Ouais.
Juste ça, là, pas qu'on réglerait des problèmes, mais je pense que ça augmenterait les chances de faire sortir des choses qui sont vraiment, vraiment importantes.
Puis en plus, c'est que, tu sais, la question pourquoi, là, c'est un puissant fond de bonnes réponses, je trouve. C'est une bonne question à se poser à tous les niveaux.
Ouais.
Et aussi, ce que j'aime de toute bonne conversation. Tu sais, tantôt, quand tu disais partir de n'importe où pour aller nulle part, j'ai pensé à mon ami Guillaume, avec qui je parle quotidiennement, à quel point les conversations à tous les niveaux nous habitent après. La conversation avec toi va m'habiter pendant quelques semaines, inconsciemment ou consciemment. Puis fait que tu continues à évoluer, ta pensée continue d'évoluer, tu es en constant mouvement sur... OK, mais c'est quoi que je veux dire? C'est quoi qui est important pour moi? C'est que tout ça, là, tu sais.
C'est exactement ça.
Et je comprends, comme tu dis aussi, c'est qu'il y a des gens ou des lieux ou des contextes qui ont pas le luxe qu'on peut peut-être avoir de s'arrêter un moment pour faire, hey, attends, tu sais, de se parler. Mais je pense que des fois, ça peut tellement être bénéfique.
Il y a tellement d'enjeux sociaux qui partent de l'absence de conversation. Il y a tellement de problèmes dans nos sociétés qui partent de l'absence de conversation, qui sont juste des projections de gens qui sont au pouvoir puis qui pensent qu'ils l'ont l'affaire puis qui savent que c'est pertinent pour les autres, fait qu'ils l'imposent aux autres.
Mm-hmm.
Puis de la manière la plus, j'imagine, propice de déconstruire ça, c'est qu'on fasse des collectifs qui se parlent. Fait que les enjeux de pouvoir, de discrimination, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné dans la vie, il y a eu des groupes ou des personnes qui ont eu plus de pouvoir, qui ont fait « Oh non, là, l'affaire. » Puis, tu sais, j'étais pas là au 15e siècle, là, mais comme l'idée des peuples européens de faire un voyage pour trouver des épices puis du textile parce qu'ils se battaient pour du pouvoir puis de l'argent... C'est comme quand on fait le fast forward aujourd'hui avec tous les enjeux que ça génère, c'est quand même juste une gang de monde qui se ressemble puis qui ont fait ah ben nous on va voyager pour trouver l'Inde. Puis là c'est comme oh on a trouvé l'Inde, non t'as pas trouvé l'Inde. Puis là ça a comme parti vers on exploite on mais ça a toujours été parti de qu'est-ce qui est important pour eux autres. Puis là c'est comme là je parle vraiment de la colonisation,
ouais.
C'est comme c'est dans son côté le plus humain. C'est OK, mais tu pensais à quoi, man? Tu pensais que les épices avaient de la valeur. Tu sais, tu pensais à quoi? Comme t'as pas questionné le fait que ce monde-là qui arrive, ils ont une existence propre, de relativiser qu'est-ce que c'est important pour toi par rapport aux autres. Je sais que je suis très dans le philosophique,
mais c'est drôle que tu parles de ça.
D'imposer son pouvoir. Puis, je peux-tu juste dire quelque chose?
Oui, vas-y.
Puis je suis prudent dans ce que je vais dire, mais. Je pense que c'est important de le nommer parce que je suis allé vraiment dans le contemporain. Tu sais, mettons notre premier ministre, à un moment donné, quand on parlait de la loi 21, puis indépendamment des opinions de part et d'autre par rapport à la loi 21.
La loi 21 qui est par rapport au...
À la laïcité. La laïcité. Voilà. Donc, une perception de la laïcité, donc ça une perception de la laïcité qui interdit le voile dans certaines sphères
voilà.
de l'État. Dans un de ses discours, pour calmer la population, il a fini en discours, il a dit « c'est comme ça qu'on vit. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. » Mais ça, c'est un exemple parfait, indépendamment des opinions. C'est comme, toi, t'as décidé que ta manière de vivre, c'est la même pour tout le monde. Fait que toujours le point de départ, quand quelqu'un qui a du pouvoir pense que sa manière de vivre, ça devrait être la même pour tout le monde, on crée des oppressions.
Ouais, absolument.
Je t'ai interrompu, t'allais dire quelque chose par rapport à la colonisation.
C'est juste que c'est drôle que tu parles de ça, parce que hier soir, je parlais exactement de ça avec mes parents. De, OK, mais attends, mais à quel point, tu sais, l'idée du pouvoir, à quel point c'est une drogue dont plusieurs êtres humains sont fous de ça. Et l'idée, justement, j'étais comme, c'est bien primitif comme réflexe de faire « Moi, c'est tout ça, moi, ça. Moi, je veux plus que ça, moi. Moi, c'est tout ça. » Puis après ça, il y a une partie de moi qui était comme... Tu sais, comme, qui a eu l'idée des pays, mettons? De faire ici... Ça. Après ça, même, je disais ça, puis... Parce que le premier réflexe au départ, mettons, moi, j'étais comme... J'essayais de me mettre dans la peau à l'époque pour faire « OK, ben on... Ici, mettons, la planète était, tu sais, une planète. » Où on pense, c'était... Après ça, je m'obstinais moi-même en disant, mais juste nous par rapport aux voisins. Enfin, mais non, je vais mettre une clôture ici. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Ça n'a pas besoin d'être hostile, par contre. Mais il y a quelque chose de. Le pouvoir, puis on l'a vu aussi avec la vague de dénonciation, tu sais, l'idée de du regard des autres, lorsque tu es aimé, applaudi. T'es mis sur un piédestal inconscient que si t'es mal entouré dans ta vie, ça devient une drogue dont tu raffoles, puis tu perds le nord.
Puis c'est là où, my God, il y a comme tellement de streams ou de lignées de trucs qu'on pourrait se dire, j'ai l'impression, là, mais je vais parler brièvement du vedettarien, parce que moi, j'ai pour revenir à ce qu'on... en début de conversation, on parlait de... Là, je suis dans les médias, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai une place dans les médias qui s'apparente plus au vedettariat que tout ce que j'ai jamais vécu, dans le sens, dans le nombre de personnes qui me reconnaissent, certains accès, je le sens dans les conversations. Puis moi, rapidement, j'étais chez nous, en confinement encore, là. J'étais chez nous, puis je me disais, les enfants, les ados, et les adultes qui ont le moindrement une blessure narcissique malsaine, j'étais comme, ils peuvent pas dealer avec ça. Fait que moi-même, comme adulte, tu sais, je médite tout, là, je suis comme, je pense que j'ai une vie saine. J'étais là, le regard sur soi, il doit être demandant, tu sais. Puis je peux présumer que toi, tu le vis à un scale qui est comme 1000 fois plus élevé que le mien en termes de volume, parce que bon, OD, c'est une plateforme, puis OD, puis pas juste OD, tu sais. Puis toi et d'autres. Puis j'ai pensé, j'étais là, puis ça c'était avant même, mais ma réflexion c'était comme, je le voyais, pour mettre du concret là-dessus, je le vois sur les interactions que j'ai sur les réseaux sociaux avec les gens, je le vois sur des gens qui sont des personnalités publiques pour qui j'étais un no-name avant, puis là finalement c'est comme, ah mais I'm part of the gang, je vois vraiment une manière d'interagir avec moi qui est comme, mais si je check-in pas avec moi-même là-dessus, je me place à risque de commettre des abus. Mais puis là, je suis vraiment allé. Les enfants, les ados, je vois pas. Donc, quand on voit les enfants qui sont des vedettes, je trouve que c'est une condamnation presque à devenir quelqu'un qui va commettre des abus. C'est une exposition. En fait, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui disent, ben, vraiment, mais moi, je pense que c'en est un enjeu. Comment le vedettariat est un problème?
Absolument. Puis je pense que... de là l'importance de... Tu sais, moi, je me suis jamais considéré comme une vedette. La réalité est que, de par mon métier puis de par le nombre, j'en suis une. Mais moi, personnellement, je me considère pas comme une vedette. Et je pense... De là l'importance aussi... Ça fait quelques podcasts que je le ramène, puis encore une fois, ça illustre à quel point mes conversations ici m'habitent. Puis même des conversations que j'ai eues il y a plusieurs années, mon père, je le répète pour les auditeurs, mais parce que je pense que ça a rapport avec ce qu'on dit, mon père, il y a quelques années, il m'avait dit, les vedettes, vous prenez trop de place dans les médias. Et mon premier réflexe, ça a été de faire, ben non, c'est notre job, t'sais. Et la réflexion, évidemment, ça m'est resté dans la tête parce que c'est venu un peu comme quand il me coachait, faire, attends, ça me challenge, là, qu'est-ce qu'il me dit. Et finalement, il a eu raison de me dire ça parce que ça l'a enclenché une réflexion et de réaliser par la suite, de faire, ah oui, les médias, c'est beaucoup plus grand que les vedettes. C'est l'information, c'est le journalisme, c'est le bénévolat, name it, c'est la société. Puis de là l'importance aussi de... faut ramener des toutes sortes d'êtres humains dans nos médias.
Exact.
Pour que les jeunes se voient à la télé, pour que les jeunes puissent se projeter, pour qu'on puisse être une société plus curieuse, mieux éduquée. C'est super important qui fait en sorte que je suis complètement d'accord avec toi, mais après ça, il y a une partie de moi qui fait cette affaire-là qui est la popularité. On peut pas juger de l'importance d'une personnalité dans nos médias de par la quantité de gens qui la suivent.
Exact. Puis, et en même temps, c'est des construits qui sont tellement ancrés dans nos vies depuis qu'on est enfant que c'est un travail énorme de désapprendre ça. Parce qu'on est, puis on voit les gens à la télévision. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à s'éloigner de ça, alors que depuis qu'on est enfant, c'est ce qu'on reçoit comme message. Il y a des gens qui sont plus populaires, qui ont plus d'argent. Il y a plein d'associations que notre cerveau fait, je pense, qui nous placent dans dire, mais oui, c'est vrai que même si je veux pas plus de pouvoir dans nos sociétés, il y a du monde qui sont plus valorisés. Tu sais, c'est toujours la question de... aller à l'encontre, au fait, avoir une intention, mais quand même une intention qui parfois dénature des apprentissages qu'on a fait depuis qu'on est enfant.
Ouais, ouais, absolument.
Tu sais, c'est pas déraisonnable de dire qu'il y a des avantages qui viennent avec le fait d'être plus populaire. Ouais. Donc, c'est pas déraisonnable pour un enfant qui voit ça de se dire, ben, je vais vouloir être plus populaire pour avoir ces avantages-là. Ouais. Puis là, la roue tourne parce que finalement, la personne qui fait « Ouais, mais c'est vrai que dans ma vie, on m'écoute moins parce que j'ai moins de likes sur... » C'est comme, j'ai moins de likes sur Instagram, donc je vais faire des choses qui vont m'avoir plus de likes. Puis là, c'est comme, là, on devient des adultes qui ont vécu là-dedans. Puis là, ça finit plus, tu sais.
Mais je pense quand même que, encore une fois, j'en parlais avec mon père ce matin. On parlait d'Yvon Deschamps, mettons. Puis je disais à quel point... J'ai écouté le podcast de Mike Ward sous écoute quand il a reçu Yvon Deschamps et Julie Richards, puis j'écoutais Yvon, puis j'étais comme tellement reconnaissant que cet homme-là fasse partie de notre société, puis qu'il ait, tu sais, fait un chemin tellement important pour les humoristes au Québec. Et après ça, je le trouvais grandiose. J'étais comme, quelle chance pour nous d'avoir un homme comme Yvon Deschamps comme étant, entre guillemets, le plus grand humoriste de l'histoire du Québec. Puis après ça, ma réflexion s'est poussée à dire, je pense que la raison pour laquelle c'est le plus grand humoriste de l'histoire du Québec, c'est parce qu'il est tel qu'il est. C'est parce qu'il est Yvon Deschamps.
Exact.
Tu sais, parce que quelqu'un qui aurait voulu atteindre le niveau d'Yvon Deschamps juste parce qu'il voulait avoir des goodies puis être connu, serait jamais arrivé à ce niveau-là. Exact. Même chose pour un gars comme Barack Obama. Ce qui fait qu'il est si spécial, c'est parce qu'il est, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, chaque être humain est unique.
Exact.
Et notre unicité est notre plus grande force.
Exact. T'sais. Exact. Puis on n'échappera pas à une forme de réalité qu'il y a des gens qui ont des aptitudes différentes, des gens qui ont des talents différents, qui vont se manifester dans le monde différemment en fonction de plein de variables. Moi, ça m'aide ce que tu dis là parce que c'est comme... Je réfléchis souvent à la question de l'équilibre. Tu sais, le fameux Spider-Man, là, « With great power comes great responsibility ». C'est un peu ça. Du moment où tu as plus de pouvoir, puis tu prends tes responsabilités qui viennent avec tes pouvoirs, ça va. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que l'idée de dire « on va tout être égal », c'est pas ça tant de points. C'est dire « on va tout venir dans le monde, puis si quelqu'un est un excellent pâtissier, une excellente pâtissière, puis great, do your job, puis peut-être que tu vas pas être tant connu, mais c'est pas grave, tu vas être heureux à faire ça, puis t'es authentique, puis t'es humble à faire ça. Mais c'est vrai que tu vas être plus connu si t'es le président des États-Unis. Mm-hmm. Puis si t'es le président des États-Unis, on s'attend à ce que tu assumes les responsabilités qui viennent avec ce pouvoir-là. Donc c'est comme de matcher ton pouvoir avec ta responsabilité. Et c'est vrai que si tu parles, n'importe quelle phrase que tu dis va avoir plus de poids que le pâtissier ou la pâtissière dans un quartier au Wisconsin, là. T'sais, c'est comme, mais quand il y a un déséquilibre, c'est là que la société, elle va pas, là. Et c'est là où on sent tomber dans Donald Trump.
Ouais.
Mais si on regarde sans tomber dans le sensationnalisme, c'est une question de déséquilibre. Quand on compare un Obama puis un Trump, il y a vraiment un déséquilibre majeur entre le pouvoir qui est sensiblement le même puis la responsabilité qui est juste pas assumée.
Absolument.
Mais si on a quelqu'un qui assume ses responsabilités, puis peu importe, c'est tout le monde, c'est ça.
Mm-hmm.
Et même avec quelqu'un avec relativement peu de pouvoir, a quand même des responsabilités. Ça revient encore là. Moi, je fais des lignes comme dans ma tête. Des fois, je parle, excusez-moi.
C'est parfait. Non, j'adore ça. Ouais.
Mais c'est comme la fameuse conversation, tu sais, tu peux avoir être relativement peu connu comme personne, avoir une tribune qui est moins grande, avoir un emploi justement qui paye plus ou moins. Puis je peux reconnaître aussi la question des désavantages que ça provoque, mais il y a quand même une responsabilité. Comment une personne s'engage comme citoyen, citoyenne dans la société pour que ça change? Fait que c'est comme une Greta Thunberg qui, oui, est une femme, une jeune fille privilégiée, une jeune ado privilégiée parce que ses parents, quand même, avaient une structure de soutien. Mais elle a quand même fait le choix de dire, je vais aller prendre une pancarte puis m'installer dans la rue puis dire je vais pas à l'école le vendredi, et ça a généré ça. Je dis pas que tout le monde peut faire ça, mais je pense que tout le monde a une responsabilité encore plus en ce moment de citoyenneté, peu importe son pouvoir. Voter à tous les 4 ans, c'est une chose, mais la démocratie, c'est comme entre 4 ans, là, il se passe des affaires. Puis ça revient à la conversation, ça revient à... C'est où les espaces où je vais dans des assemblées de cuisine, puis je jase de choses, je parle avec du monde, puis je dis, hey, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ouais. Quelle idée qu'on brasse? Qu'est-ce qu'on questionne? T'sais, si on fait pas ça, on laisse le pouvoir à des gens qui ont les plateformes, puis on les laisse dire qu'est-ce qu'eux autres ont envie de dire. Puis là, on abdique notre rôle. Puis là, on déconstruit notre société. On mine, tu sais, on gruge nos institutions puis notre société en n'ayant pas l'engagement qui est nécessaire.
Absolument, absolument, parce que c'est un travail quotidien. La vie, c'est niaiseux, mais des fois, il m'arrive d'avoir, tu sais, comme l'autre fois, là, quand j'étais assis avec des gens avec qui j'étais pas d'accord, peu importe, c'est super niaiseux, mais ça a été tellement un événement frappant pour moi. Ben, j'étais assis là, puis j'étais comme, en ce moment, je suis dans ma vie. J'ai le pouvoir, je suis là, là. Ouais. C'est là, là, ça se passe maintenant. Qu'est-ce que je veux de ma vie maintenant? Je veux que ma vie soit autre chose. C'est super banal, mais après ça, ça peut être la même chose par rapport à en tant que citoyen, notre rôle dans notre société 100%. Quotidiennement, avec les conversations qu'on a, avec les questions qu'on pose, avec les gens avec qui on donne de notre temps, ce qu'on fait de notre temps. Et tout ça, je suis complètement d'accord avec toi.
Exact, exact. Puis ça c'est essentiel, c'est particulièrement essentiel dans une époque où je pense que les choses bougent rapidement.
C'est fou.
Il y a beaucoup de... Fait que de se tenir le plus responsable possible. Puis moi, je vois déjà venir... Encore moi, c'est moi qui anticipe des choses, là, mais je vois déjà venir des gens qui disaient « Ouais, mais tu sais, comme il y a certaines personnes qui n'ont pas de privilèges, donc... Et même quand quelqu'un se retrouve dans une situation assez précaire, je ne dis pas que c'est le même niveau d'engagement ou de responsabilité qui est demandé. C'est encore une fois la question du pouvoir-responsabilité. Mais, tu sais, j'ai entendu le commentateur à CNN, Van Jones, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans ses discours. Je pense que dans un de ses livres, c'est dans un de ses livres qu'il a écrit... je me souviens plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu. Pas grave. mais il parlait de Mandela. Il disait, tu sais, on peut pas se plaindre parce que... Tu sais, Mandela, il a passé 26 ans dans une prison, 27 ans dans une prison. Il aurait pu... C'est vrai, toi, t'étais en Afrique. Ouais. C'est combien, 26 ou 27?
27.
27. Il a fait 27 ans dans une prison. Si Mandela, il a fait ça... Comme on peut faire n'importe quoi, là. Comme on peut.
Mais
on est supposé faire de quoi? Parce que c'est comme. Là, c'est le gars emprisonné pendant 27 ans dans une prison. Je ne veux pas comme hiérarchiser les problèmes, mais ce serait fair de dire que ça, c'est un problème assez majeur et qu'il n'y a pas dédouané sa responsabilité.
Ça revient à ce que tu disais tantôt. Il était rendu. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le déshumaniser. Cet homme-là, à faire hey, « toi, tu fais plus partie du projet collectif. » Puis, comme tu disais tantôt quand tu parlais de responsabilité, les 27 années que Nelson Mandela a passées en prison l'ont jamais fait déroger de sa responsabilité. Alors qu'on s'entend, le 27 ans, j'en ai 28, là. C'est ma vie. C'est terrible. Ouais. Et cet homme-là, ça revient à ce que tu dis, c'est que... nos leaders doivent être responsables et forts parce que les gens les regardent et les suivent. Et Nelson Mandela, c'est ça qu'il a fait.
Ouais.
Nelson Mandela a sauvé des milliers de vies qu'on saura jamais juste de la manière qu'il est sorti de prison. Il est allé serrer le chef du parti qui l'a emprisonné 27 ans avant, alors que tout le monde était prêt. Tout le monde a regardé avec des armes. Faire dude, on est là, là. La guerre civile, on attend ton call. Puis lui, il a juste fait comme, on va parler.
Ouais, c'est un niveau de compassion, d'ouverture qui est un peu hors norme.
J'ai juste rencontré Lucie Pagé, qui est mariée à Jay Naidoo, que j'ai rencontré aussi, qui a travaillé avec Nelson Mandela, puis c'était un ami de la famille. Et je t'en parle, j'ai des frissons. Juste à parler avec ces gens-là, le bagage que Nelson Mandela a offert à des gens avec qui il a partagé sa vie, quand ça revient aussi à dire, évidemment, quand il était politicien et activiste, évidemment que c'était une personne qui était hautement suivie, regardée, admirée, mais même dans le quotidien, ce qu'il semblait faire de ce que Lucie m'a raconté, il y a une grandeur d'âme qui moi m'a touché.
Oui, ben ça me fait penser à... Ce que tu dis là me fait penser à l'importance de la gentillesse qu'on oublie. Puis c'est comme la forme un peu la plus révolutionnaire. Plusieurs personnes vont dire la forme révolutionnaire de... En fait, la plus grande révolution, c'est la gentillesse qu'on va avoir ou le kindness qu'on va avoir aux différentes personnes qu'on rencontre. Parce que justement, ça a des impacts. Encore là, ça revient, tout est dans tout. Là, ça revient dans les vies qu'on influence. Mm-hmm. Puis moi, je sais que c'est un des enjeux que j'ai. Des fois, je pars dans des réflexions qui sont très larges, puis j'oublie, tu sais, comme, ah, mais non, mais au quotidien, je parle avec des humains, tu sais, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis, puis d'être présent à ça. Tu sais, moi, j'essaie de pratiquer d'être plus présent à ça, parce que c'est un acte révolutionnaire d'être comme ça. Ils sont faits tout ça, là. C'est des règles de base de l'amitié, là. C'est, moi, j'ai grandi, j'ai été baptisé, le catéchisme, tout ça, ça fait partie de ma vie, puis ça a fait partie de ma vie. J'ai moins cet attachement-là à la religion. Puis c'est des règles de base, là. T'sais, aimons-nous les uns les autres. En fait, ça aussi, c'est intéressant. C'est comme comment les religions ont été à plusieurs niveaux instrumentalisés, mais les enseignements de personnes comme Jésus, là, c'est fucking important. Là.
Ouais. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'est comme le gars en tant que tel. Après ça, qu'est-ce qu'on en a fait, c'est autre chose.
Ouais.
Mais aimez-vous les uns les autres, puis pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Tu sais, il y a des affaires qui sont comme, c'est du knowledge tellement important.
Ben, puis tellement de base, tu sais, l'amour, le pardon, c'est des choses tellement puissantes. Pardonner, c'est puissant, là. C'est très, très, très puissant, là, quand c'est incarné. Là,
ouais.
C'est, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire. Mais tu sais, c'est. Fait que je suis d'accord avec toi aussi, tu sais, évidemment, je trouve la religion, c'est des choses que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre à quel point c'est encore aussi puissant dans le monde aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre. Mais je suis d'accord avec toi que la gentillesse, la compassion, l'empathie, l'amour, ça va toujours être des choses. Peu importe la religion, ça semble. J'ai aimé, moi, en secondaire 5, j'avais plus des cours de religion, c'était éthique et culture religieuse. Ouais. J'ai vécu le changement, tu sais. Puis je me souviens étudier l'hindouisme pour la première fois de ma vie et faire, mais c'est sublime, cette manière de vivre que toi, tes propres dieux, j'ai mes propres dieux. C'est moi, j'ai dieu du gym, puis de whatever, nice. Les cannolis, man, ça fait partie de ma vie, c'est ça. Puis après ça, le karma. Tu sais, quand j'étais à Bali, là-bas, les gens croient beaucoup au karma. Ouais. C'est l'hindouisme. En tout cas, là où j'étais à Bali, c'était ça. T'sais. Et je me souviens, il y avait un chauffeur de taxi qui me conduisait souvent, que j'appelais toujours le même. T'sais. Et à un moment donné, il me fait une ride qui coûte 5 $. J'y donne 10 $. Et il me dit, « Ah, j'ai pas de change. Donc, est-ce que ça te va si la prochaine fois, je t'enlève 5 $, t'auras comme un crédit de 5 $?» Puis je fais juste, je suis pas inquiet, mais à ce moment-là, je fais juste, naturellement, la question que je pose, c'est « Can I trust you? » Puis il s'est tourné vers moi, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il a fait « I believe in karma. »
Ah ouais, hein, c'est nice.
Et pour lui, c'était d'une évidence de « Penses-tu vraiment que je vais te voler 5 piastres? Je vais manger de la merde pendant je sais pas combien de temps pour ça. Fuck that, tu sais.
Ouais.
Et comme de fait, puis j'étais comme « Cool. Et encore une fois, c'est un petit truc banal dans ma vie, mais qui a été vraiment grand pour moi de faire « c'est un être humain, je suis un être humain, puis on s'est juste parlé, communiqué, on s'est cru, puis après ça, évidemment qu'il y a des voleurs, il y a des sales, il y a du monde croche dans la vie, mais à ce moment-là, j'étais comme « ah, j'ai trouvé ça très, très, très humain comme moment, puis la fois d'après, comme de fait, j'avais une ride qui coûtait ouais. 15$ et comme « you owe me only 10, remember. »
Puis je dirais, c'est là où ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt. Pour moi, parce que tu dis, il y a du monde croche dans la vie. On peut se poser la question dans notre conversation, qui est croche, qui ne l'est pas. C'est quoi, qui est chef de caler qui sont les croches, qui sont pas les croches. Je pense qu'on est tous un peu croches, puis on l'est tous pas en même temps, avec des degrés différents. Mais je pense que c'est ça, moi, qui me fascine, c'est dire, ben, qui a le droit de décider qui est croche? Comme à quel moment on peut se poser. Tu sais, c'est la même chose que les frontières. Qui a décidé? C'est qui le chef des. C'est qui le chef du monde correct? Il y en a pas.
Ouais.
On est tous ensemble à déterminer qu'est-ce qu'on veut pas, puis qu'est-ce qu'on veut dans nos sociétés. Puis. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas des moments où on fait OK, ça, c'est vraiment fondamentalement wrong, qu'est-ce qui a été fait. Mais d'accepter le plus possible qu'on est croche aussi, c'est qu'on est capable mieux de dealer avec les problèmes. Tu sais, je te vois au chaud de la tête, je sais pas comment ça résonne pour
toi. Ben
oui,
là. Ça résonne au bout, puis ça revient encore une fois à la conversation, l'idée de faire... l'idée de l'humain, je trouve, ça revient à ça de permettre aux gens de se tromper, puis de recommencer, puis de changer, puis d'évoluer, puis de... Je sais pas pourquoi ce que tu disais, ça résonnait en moi de... Je pensais à Pablo Escobar, tu sais, de faire... Ben oui, évidemment, aux yeux de tous, c'est un tout croche, mais aux yeux de plein de gens en Colombie, il a été fucking smart pour eux, tu sais. C'est ça qui est weird, c'est que tu fais... c'est super dur à quantifier ou à qualifier ou... Je suis pas en train de dire que Pablo Escobar, c'est un héros de ma vie, là. Mais
non, non.
Je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien de questionner tout.
Ben, prenons l'humain comme étant un être vivant dans le scale, toute la grandeur de ce qu'on est par rapport aux atomes puis par rapport aux galaxies, tu sais. Quand on regarde des microbes au microscope, je pense pas qu'on fait un jugement de valeur sur les cellules, tu sais, qui bougent. Tout comme quand on regarde les astres, je pense pas qu'on fait un jugement de valeur sur comment qu'ils devraient, leur moralité, comment qu'ils bougent. Nous, dans ce scale-là, on n'est pas spécial.
On n'est pas différent.
On n'est pas différent de la petitesse de la fourmi ou du microbe, de l'atome, la molécule, que les planètes puis les astres. Fait que quand on regarde ça, c'est vraiment... Moi, je le dis moi-même, je fais comme Fabrice, comme là, genre, tu déparles, t'en as fumé du bon, mais pas tant. Tu sais, il y a comme vraiment une question de... On est juste ça dans le grand... On est important et pas en même temps.
Ouais.
Fait que nous, ce qu'on a déterminé qui est moral ou pas, est quand même assez irrelevant dans le grand scale de la vie. Ça nous dédouane pas. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'on va sortir dehors puis qu'on va tuer du monde puis on va faire... Ah, c'est pas grave. C'est pas ça. Faudrait pas, là.
Non, comme... mais j'aime l'idée de la philosophie de ce que tu dis. Est le fun. C'est intéressant.
Ben, c'est parce que ça permet d'être le plus vivant possible dans tout ce qui est présent. Puis de pas penser qu'on est pire ou qu'on est mieux. Puis ouais, d'être conscient de... En fait, aussi d'être conscient de notre responsabilité dans toute cette chaîne-là aussi. Mais on est juste ça, on est juste des êtres. Ouais. Ces questions-là, puis comme il y a du monde qui ont probablement creusé ces questions-là beaucoup plus que moi, là, comme j'ai balancé ça à l'instant, là, mais comme...
Mais tu vois, c'est drôle, il y a un de mes amis, encore une fois, je ramène Guillaume Gérard, qui est un de mes amis très proches. On parle beaucoup, beaucoup, lui et moi, puis... Il y a, je sais pas, là, peut-être 2 ans de ça en joke, mais finalement, c'est devenu une phrase qui résonne dans nos vies. C'est comme, on est juste des tas d'atomes qui veulent avoir du fun.
Exact.
C'est ça qu'on est. Tu check les... on vient de passer les deux semaines de la construction. Qu'est-ce que les gens ont fait? On va aller en camping, on va aller, si, à la crise, les glissades d'eau sont fermées. C'est comme, on est juste un tas d'atomes qui veulent avoir du fun. Puis inconsciemment, je pense, c'est que c'est un peu d'oublier que la mort est à nos trousses, là aussi. Puis là, encore une fois, je te suis dans, dans l'ésotérisme de ça, c'est de faire, tu sais, tous les jours, on peut pas se lever en faisant, ça se dit, il m'en reste plus long, tu sais, ça peut pas être ça, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de faire, OK, ben, on va travailler, on va sortir, on va s'amuser, on va avoir des bébés, peu importe, puis un peu comme passer le temps. Mais après ça, faut aussi, faut que ce soit important. Faut comme, c'est pour ça que j'aime l'idée de c'est important puis ça l'est pas en même temps. Ouais. Parce que sinon, on virait fou. Si tout le temps, on était comme, ah, si, on va mourir, ce serait ben trop intense.
Ouais.
Fait qu'il faut un peu l'oublier, mais en même temps, faut jamais complètement l'oublier parce que justement, ici, aujourd'hui, là, ça, c'est notre vie en ce moment. Là, on est dedans. Là.
Exact.
Puis
exact.
À tout moment, tout peut changer. À tout moment, on a décidé ce matin que tu sais, t'as décidé ce matin de faire, hey, moi, j'ai le choix de canceller Jay pour aller à un meeting qui m'est aussi cher. Mais ah, finalement, j'ai choisi cette voie-là. Mais à ce moment-là, c'était ta vie, c'est toi, c'est ton affaire. Tu sais, c'est tellement important, je trouve, de faire les... C'est weird parce que des fois, il faut être égoïste pour être plus généreux. Tu sais, faut faire des choix pour soi pour que si nous, on est bien, on peut mieux offrir. Tu sais.
Exact. Moi, j'apprécie beaucoup la conversation parce que ça, vraiment, là, il y a tellement de thèmes dans lesquels je trouve qu'on navigue, mais qui convergent vers des thèmes similaires. Puis dans l'idée de la conversation... c'est drôle, il y a des concepts que j'ai étudiés, mais il y a un livre qui s'appelle, je pense que c'est The Infinite Game. Puis, je connais les thématiques du livre sans avoir lu le livre, justement, parce que j'ai eu des conversations sur ces thèmes-là. Mm-hmm. Puis, c'est la fameuse distinction entre ce qu'on appelle le finite game. C'est comme, OK, je me lève le matin, voici ce que je fais, puis voici ce que je règle. Puis le infinite game, qui est comme... On est juste en train de naviguer en fonction de nos croyances, puis on avance sans savoir. Donc, ça fait le lien avec l'infinité de la conversation. Fait que finalement, le choix que je fais aujourd'hui d'être là avec toi plutôt que d'être ailleurs, il répond à un besoin spécifique en fonction de moi, ce que j'ai décidé de faire. Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je le sais pas. Je vais être mort, puis on le saura pas plus. C'est comme une espèce de mouvement collectif de encore là, ça, d'un point de vue microscopique, on bouge, puis on ne sait pas trop comment. Puis tu sais, ça revient à... une forme de, je pense, de pour que ça fonctionne tout ça, je crois, ça revient à une appréciation qui est nécessaire de comment on est tous là-dedans ensemble. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai deux exemples différents qui pointent vers le même concept. J'allais une fois, ben, en fait, trois fois dans un centre bouddhiste. Je médite, mais j'allais trois fois sur l'Oriier à Montréal, dans un centre de méditation, puis t'arrives là, tu sens engagement, tu restes... En fait, il y a des horaires, puis je suis resté une heure. Puis c'est méditation avec une espèce de sermon là, d'un moine. Puis en fait, dans la méditation, il nous invitait à la compassion, il nous invitait à réfléchir, en fait, à être grateful, reconnaissant des personnes qui font en sorte qu'on peut manger. Mais là, moi, naturellement, c'est comme... Ah, ben, je vais remercier, par exemple... les gens qui... tu sais, comme si je vais chez ma mère, je pense à ma mère qui me fait ma bouffe. Mais les agriculteurs, comme... Puis pas juste les agriculteurs, le système économique qui fait en sorte que je peux manger. Mais ça, là, tout le monde qu'on pense qui est croche, il participe à ça aussi. Je peux manger parce que... On fonctionne les uns les autres d'une manière qui fait en sorte que la table sur laquelle qui est devant nous en ce moment, elle a été construite par du monde que peut-être que j'ai passé à côté, je l'ai jamais vu. En fait, j'ai passé à côté de cette personne-là, je l'ai pas aimée, mais tu sais, cette table-là, elle nous est utile. Mm-hmm. Puis on le sait pas. Puis j'en parlais à une collègue de travail que j'adore. J'adore à Laurence. Yeah. Elle s'appelle Laurence. Puis je me souviens pas c'est dans quel ordre, mais on parlait de ces enjeux-là, puis elle me dit, c'est vrai, quand je conduis, je me dis tout le temps, non, c'est qui a construit les autoroutes. Puis là, ça parle à la responsabilité collective. Il y a tellement de monde qui permettent juste qu'on puisse avancer. Mais c'est du monde qu'on connaît pas, puis qu'on peut, encore là, on peut détester, mais finalement, notre vie, elle dépend de ce monde-là.
Mais c'est qu'en plus...
Nous, ils dépendent de nous autres. On est interdépendants d'une manière qu'on n'a jamais mesurée. Hey, la personne qui... la personne qui... Tu sais, toute l'histoire de la pandémie qui a commencé, là, c'est qui a mangé
le genre de chauve-souris, là, où on sait comme, pas trop?
Qu'est-ce qui a été fait qui a un impact sur toute la société? Donc, autant dans les problèmes que dans la reconnaissance, c'est infini, ces mouvements-là. Donc, des fois, on aime les gens qui sont proches de nous, mais comment est-ce qu'on aime le monde qui sont pas proches de nous, mais qui sont vraiment importants pour nous autres, tu sais?
T'as là l'importance aussi de, justement, l'amour, la reconnaissance, l'humilité. En plus, on est les premiers. Tu sais, je reprends ton exemple des routes, l'exemple de Laurence, ta collègue. Tu sais, on est les premiers à chialer sur la construction. Et je peux comprendre parce que dans l'immédiat, ça fait chier. Ouais. Tu sais, on est dans le trafic, on arrive en retard. Asti, il y a des détours, nanana. Mais après ça, quand la route est belle ou ça fonctionne, on n'y pense plus. Tu sais, exact. Mais fait que c'est ça. Je suis complètement d'accord ouais. avec.
Puis même que. Ça a des liens avec le végétarien, le pouvoir, parce que ce qu'on voit plus souvent, ce qui est plus présent pour nous, ce qui a le plus d'impact immédiat, c'est ce qu'on va valoriser, ce qu'on va célébrer. Fait que, tu sais, on va idolâtrer des participants à OD, par exemple. Tu sais, prenons ça comme exemple. Je vais le comparer en disant, mais OK, leur impact dans nos vies... Je pense que c'est comme. Je pense que c'est cool. Il y a quelque chose de cool. Moi, je suis un fan d'OD, là. Comme, je suis un big time fan là, depuis des années, là.
C'est
puis, tu sais, pis drôle, parce que je vais par extension. Moi, quand j'ai vu le père à. Je le disais à Kiari, mais quand j'ai vu le père à Kiari, là, avec son suit, puis qu'il parlait de l'appréciation de l'émission, j'étais comme. C'est comme un gros highlight de toute la dernière saison, tu sais.
C'est
Gerbert. Exact. Puis, en même temps, je fais. Ouais, mais quand on parle. Dans l'actualité en ce moment, on parle des migrants, des demandeurs d'asile, la plupart sont d'origine haïtienne, qui demandent un statut de régularisation, ils demandent la régularisation de leur statut pour rester en fait au pays. Puis c'est des gens qui travaillent dans nos CHSLD puis qui sont presque exclus par le gouvernement. J'en parle dans les gens qu'on connaît pas mais qui sont vraiment importants. Puis comment on mesure qu'est-ce qui est important pour nous, le fait qu'il y a des gens qui soient plus visibles. On a un attachement, on oublie par contre l'importance de certaines autres personnes. Fait qu'encore une fois, d'être dans un esprit collectif, puis d'être en conversation continue sur « Hey, on l'a pas vu celle-là ». C'est comme dans une game de hockey, c'est que tu vas voir le genre qui score 5 buts, mais le défenseur qui a fait la mise en échec à telle seconde, ouais. là, on l'a pas vu, puis, mais c'est important. Il est allé dans les coins, puis il est moins valorisé. Fait plus on se parle, plus on voit nos angles morts.
Et oui.
Puis on est capable de valoriser un préposé au bénéficiaire ou une préposée au bénéficiaire. Souvent, c'est des une. Mm-hmm. Autant que Kiari puis son père, tu sais. Ouais. Comme dans le scale de qu'est-ce qui est important.
Et puis ça revient à la communauté. Hier, je parlais de ça aussi avec mes parents, justement.
Tu parles beaucoup de choses avec tes parents.
Je parle beaucoup avec mes parents, justement, de ce temps-là. Je me trouve encore une fois.
C'est cool.
Je suis super chanceux. J'ai 28, ils en ont 55. Et je trouve que c'est un prime time d'apprentissage l'un et l'autre.
C'est très beau.
T'sais, je trouve que l'expérience, ça s'achète pas. Mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans en plus. Fait que tu t'assois avec tes parents pour faire c'était où votre premier appart? Puis là, ça part. Puis là, ma mère parle de son père. Puis là, si, puis ça. Puis asti, mon père a joué du drum. On a vendu le drum. Asti, le premier, on a acheté, ça arrive. Non, mais on venait de Montréal. Mais en tout cas, des histoires fascinantes, tu sais. Puis ça revenait à exactement ce que tu disais tantôt de l'idée communautaire, d'être un bon citoyen dans notre communauté, fait en sorte que ça va avoir, tu sais, c'est une goutte dans l'eau qui va avoir, tu sais, des réverbérations. Puis ça me faisait penser aussi. J'ai oublié mon train d'idée, mais il y avait tout ça là-dedans. Là, tu sais, je trouve ça...
Les masques? Non, mais parce que moi, j'ai pensé, je sais pas, j'ai lancé ça en présumant pas ce que tu avais en tête. Là, j'ai aucune espèce d'idée de ce que tu avais en tête. Mais moi, la question des les masques, la pandémie, dans son sens large, m'apparaît un exercice de communauté, de sens de communauté important parce qu'on est appelé dans toutes nos interactions à dire c'est quoi les impacts de ce que je fais aujourd'hui sur les autres. Fait que le port du masque, c'en est un exemple.
Absolument.
Tu sais, moi, la semaine prochaine, je pars avec les coachs de Pau 3 Points. On est en nature, on va être plusieurs, on a mis un protocole et tout ça, mais tu sais, juste mes comportements personnels. D'ici à la semaine prochaine, si je pogne la COVID, ça a un impact pas juste sur moi, ça a un impact sur les coachs, leur famille, la société. Encore là, puis on n'est même pas capable d'identifier les ramifications de ça. Tu sais, en Italie, par exemple, mon cousin qui est médecin m'expliquait que, on l'a vu dans les médias, là, c'est pas un secret, mais il m'expliquait que c'est deux événements sportifs ou deux événements de masse qui ont fait, qui ont créé l'explosion dans la transmission communautaire. Mais il suffit ces moments-là. Fait que comment, comme individu, je me dis, je porte un masque ou j'en porte pas? C'est pour ça que j'ai pensé à ça dans le sens de communauté. Tu sais, si je porte un masque, c'est pas agréable. Moi, je trouve pas ça nice, mais c'est quoi l'impact? C'est quoi le désavantage que j'en tire par rapport à ma responsabilité en ce moment même dans quelque chose où c'est comme « we're at war », là. « We're at war », there's a virus », puis comme quand il y a un uniforme, puis l'uniforme, c'est le masque, tu le mets dessus, si tu le mets pas, je sais pas, là, c'est comme... c'est cheap parce qu'il y a du monde qui peut mourir.
Ouais, exact.
Mais tu le sais pas, peut-être pas.
Ça revient à l'empathie, ça revient à faire... c'est pas nécessairement pour toi, c'est pour le grand-père de ton ami... C'est pour la personne qui a des problèmes d'obésité, c'est pour la personne qui a des problèmes pulmonaires. Fait que ça revient à l'empathie, ça revient au Black Lives Matter. C'est pas parce que toi, personnellement, ça t'atteint pas ou ça affecte pas ton quotidien que c'est pas quelque chose qui est un réel problème.
Exact, exact. Puis si on pousse, je pense que je dirais ça affecte pas au sens de l'immédiat, mais d'un point de vue de... invisible ou incontrôlable, ça revient. C'est le karma. C'est le karma, man!
Yeah.
C'est que ça va revenir. C'est que s'il y a du monde qui meurt plus, ça crée des problèmes, il y a des coûts à la société, mais tu sais, finalement, ben, ça se peut que tu aies à payer plus d'impôts pour ces affaires-là. Ben, si tu payes plus... T'sais, c'est que finalement, on n'est même plus capable de mesurer les impacts que ça a sur nous comme personne. Tu sais, quand on parle de Black Lives Matter, là, Black Lives Matter, c'est oui, soutenir d'être présent aux vies des personnes noires, puis on pourrait dire Black and Indigenous Lives Matter, on pourrait dire Black Trans Lives Matter, puis c'est d'être présent aux souffrances de ces personnes-là, incluant moi étant une personne noire. Puis c'est aussi une question de... Ouais, mais c'est nous ensemble. Si les populations noires, les populations autochtones, les personnes racisées en général, les personnes homosexuelles, les personnes en situation économique défavorable sont... délaissés comme des maillons d'une chaîne, ben finalement, la chaîne, elle avance pas plus. Fait qu'on n'est pas gagnant. Tu sais, la population noire, la population carcérale chez les Noirs a augmenté de 90% de 2003 à 2013. Il y a un ensemble de facteurs qui ont fait ça.
Au Québec?
Au Canada.
Au Canada.
Au Canada. 90%, donc presque doublé. Puis il y a un ensemble de facteurs incluant les mesures Tough on Crime, tu sais, sous le gouvernement Harper, qui ont généré des délits, qui ont mis des personnes en prison pour des raisons mineures. Puis aussi, il y a eu une recherche en 2015 qui démontrait que ce qui détermine le taux de présence policière dans les grandes villes canadiennes, c'est pas la criminalité, c'est le taux de personnes racisées. Fait qu'il y a du monde dans des penseurs, des dirigeants, des chefs de police qui ont fait à un moment donné, ça va être ça notre déterminant, puis que ça influence des choix importants. Mais puis là, toute cette militarisation là de la police, toute la question de la répression, puis le désinvestissement dans les communautés. Ben, ça fait une population moins forte pour tout le monde. Fait Black Lives Matter, at the end of the day, c'est, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire All Lives Matter au sens de on décrédibilise, mais c'est pour tout le monde. C'est pas les Noirs, on va les aider. C'est on est tous mieux si les Noirs peuvent s'épanouir pleinement, tu sais.
Absolument.
Et que ça revient au retour, c'est le karma, comme.
Mais ça revient, en plus, en pandémie, on le voit à quel point on est fait pour vivre en société. Quand t'isoles chacun chez soi, ça va pas bien dans le monde. C'est ça qui est particulier. Puis on a beau dire, là, on a besoin de la nature, on a besoin de s'isoler, chacun... Oui, tout ça est vrai, il y a des gens plus solitaires que d'autres, tout ça est vrai. Mais ultimement, on est fait pour vivre en société. Et c'est inacceptable pour les plus forts ou les plus nantis ou les plus chanceux de la société de pas... considérer ceux pour qui c'est pas une réalité, ça.
Exact.
C'est inacceptable.
Exact.
Puis c'est pour ça que je me posais la question de faire est-ce que je quitte le bateau? T'sais, est-ce que je suis là à prôner l'empathie? Puis ça, puis dans le fond, je suis le premier à être réconforté quand j'ai des conversations avec des gens avec qui je suis d'accord, mais qu'à la seconde où j'affronte quelqu'un qui a pas du tout la même opinion que moi, je le tasse du chemin en faisant j'abandonne le bateau, tu sais.
Ouais. Puis je pensais l'autre jour, j'étais avec des amis et on parlait de la question de l'indulgence puis de l'exigence. Donc d'être autant indulgent avec certaines personnes. En fait, d'être indulgent envers tout le monde, c'est-à-dire d'être présent puis d'une certaine forme d'empathie, de compassion. Mais ça implique aussi d'être exigeant par rapport aux responsabilités que les gens ont. Puis moi, personnellement, j'ai pas de problème à ce qu'une personne sorte d'une conversation dans laquelle elle veut pas engager. Pour moi, c'est toujours le fameux pourquoi. Tu sais, si le pourquoi, c'est... je parle pas de ton cas spécifique, mais si le pourquoi, c'est une forme croyance que la personne n'est pas capable de suivre la conversation, une espèce de mépris, en fait. Si c'est basé sur un mépris, c'est que là, encore une fois, on se distancie. Mais si c'est, prends moi-même, genre, j'ai de la misère à le vivre ou je suis un peu irrité, il faut que je me retire, ou des fois, ça peut être un calling out. C'est non, je vais arrêter la conversation avec toi en ce moment parce que je pense que tu es capable d'aller te renseigner avant qu'on continue la conversation. Mm-hmm. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des différents enjeux de dire j'aurais pas cette conversation-là avec toi. Comme je ne l'aurai pas parce que je pense que tu es capable de réfléchir puis de revenir. Puis là, sinon, c'est un manque de respect pour moi-même de perdre mon temps à avoir une conversation qui, des fois, est de mauvaise foi. Des fois, il peut y avoir un ensemble de choses. Donc, la compassion, puis tout, on parle de tout ça, un sens de communauté, mais ça implique d'être tough aussi. Tu sais, le fameux tough love, c'est comme, OK, mais bas sur le banc des pénalités, man, parce que en ce moment, dans le jeu, tu nuis. Ouais. Tu nuis dans le jeu. Fait que va sur le banc des pénalités, puis réfléchis un peu, tu nous reviendras quand tu seras prêt. Tu sais.
Ouais, ouais.
Fait que moi, je suis pas non plus du genre. Moi, j'aime pas non plus le côté. Peace and love, kumbaya. Non, non. C'est comme la vie est genre. Man, il y a des choses qui sont tough, puis il faut aussi être robuste quand c'est le temps. Tu sais.
Ben, puis ça revient à la phrase que le monsieur Gervais du club des petits déjeuners, c'est ça?
Germain.
T'as dit tantôt, d'être exigeant vers quelqu'un, c'est d'avoir foi en l'autre. C'est de croire en ses capacités. C'est de voir le potentiel de l'autre.
Exact.
Mais c'est dur à recevoir. C'est dur de, tu sais, se faire dire je sais que tu peux faire mieux des fois, là, tu sais, ou de se faire dire ça sous différentes formes, tu sais. Mais ça revient à ce que tu dis, indulgent et exigeant. Ouais. Quelqu'un qui est exigeant vers toi, habituellement, c'est parce que la personne t'aime profondément, puis fait comme.
Puis ça, c'est un exemple parfait de ça, c'est la question du racisme systémique, là. Tu sais, par rapport à une forme de débat que je trouve... le débat par rapport à l'existence même du racisme systémique au Québec, je pense que c'est parce que je suis prudent, parce qu'il y a du monde qui nous écoute, qui peuvent dire « Ah, mais là, il y en a-tu, il y en a-tu pas? » Si on parle de l'idée que le racisme, c'est une crise, un peu comme les changements climatiques, c'est comme de dire il y a des changements climatiques, il n'y a pas personne qui questionne ça, quoi qu'il y en a là, mais il y a un consensus, tu sais. Puis on est capable de dire si je jette des choses à la poubelle, ça y contribue, alors que je devrais faire du compost, prendre mon auto par rapport à faire du vélo, le transport en commun, l'avion. Après ça, on est capable de dire mais les gouvernements ont des responsabilités, les entreprises. On est capable de voir ça puis de se dire je vais pas me... C'est systémique, finalement. C'est comme tout le monde y appartient. Puis il n'y a pas personne qui, naturellement, va dire « Ah, j'ai contribué au changement climatique, donc je suis une mauvaise personne, puis je ne veux pas en parler, puis j'ai commis un crime. » Non, c'est... Puis des fois, il va y avoir des entreprises qui vont faire des actes polluants, puis qu'ils vont se faire condamner, puis ils vont se faire poursuivre. C'est important, ça aussi. Puis le racisme, c'est similaire. C'est ça, le truc. Il y a comme un ensemble de phénomènes qui sont complexes. On backtrack notre conversation. On parle de comment les interactions humaines sont complexes, qui génèrent, en fait, des traitements de faveur, de défaveur ou désavantageux pour certains groupes. Et ça, je dis pas que c'est correct, ça fait partie de la game. Et on a une responsabilité de le voir puis de le reconnaître. Puis il y a malheureusement des gens qui, au Québec, ont des tribunes, puis qui vont partager de la pure propagande. Là. C'est vraiment pourri qu'est-ce qu'ils se disent des fois. Puis j'en parle parce que pour moi, je pense que c'est important d'être ferme là-dessus. Tu sais, Lionel Groulx, qui est reconnu comme un des plus grands penseurs historiens du Québec, puis je ne veux pas nier ça, il a quand même écrit un livre qui s'appelle « L'appel de la race », dans lequel il fait l'apologie de la supériorité des Blancs par rapport aux autres groupes. Les Blancs, ils ne voulaient pas que les anglophones et les francophones se marient, mais ils les reconnaissaient comme étant supérieurs aux autres groupes. Mais ça c'est un gars qui est reconnu là, comme étant un de nos plus grands penseurs. Fait quand on dit « on n'a pas eu ça au Québec », OK, parlons de Lionel Groulx, parlons aussi du fait que moi, j'ai une copie de, j'ai des une copie des images d'un livre de 1938 des frères Maristes au Québec qui ont des images de personnes noires puis qui classent les groupes puis qui dit que les noirs sont les personnes les moins civilisées. Ça, c'est enseigné au Québec. Fait que quand on dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, je suis pas en train de dire il y a des bons, il y a des mauvais. Ça fait partie de notre manière de penser et ça a encore des impacts aujourd'hui. Puis, j'ai pas de patience au niveau de... À un certain point, il faut le reconnaître. Parce que c'est pas une invention de l'esprit. Il y a deux semaines, il y a un chroniqueur dans Le Devoir qui s'appelle Christian Rioux qui a écrit que les Haïtiens se prennent pour des personnes noires. C'est un argument assez débile.
J'ai vu, ouais, tu l'avais partagé dans tes stories. C'était complètement débile.
Complètement débile. Lui, ce qu'il dit, c'est... Là, il voit des Haïtiens qui disent qu'ils sont noirs, puis il trouve que c'est un problème. Puis il parle que les Haïtiens devraient pas faire ça parce qu'à la différence des Américains, les Haïtiens sont un peuple indépendant, par exemple. Puis il suggère que les Haïtiens, en fait, se disent noirs parce que c'est une forme d'américanisation, alors que de l'histoire d'Haïti, premièrement, on est noir. Deuxièmement, comme on l'a toujours dit, comme c'est quoi, lui, il n'a peut-être pas compris ça. Puis ce qui est grave dans qu'est-ce qu'il nomme, c'est le fait que... Puis là, je pourrais dire beaucoup de choses, mais ouais. C'est le fait que, selon lui... Quand les Haïtiens s'affirment comme étant noirs, ils appellent ça une régression ethnique et civilisationnelle. C'est comme WTF, là. What the ouais. fuck? What the fuck are you saying? Puis d'avoir le droit, encore une fois, de dire, OK, c'est un humain qui a dit ça, mais there's no c'est pas rose, là.
Non.
C'est de call out que c'est complètement débile. Ce serait comme de dire, par exemple, que... les Québécois devraient pas dire qu'on est francophones, là.
C'est ça, exactement.
C'est comme, par où on commence pour nommer l'absurdité de la chose? Si, puis là, ça revient à la responsabilité qu'on a de call out le déni du racisme systémique, puis l'exigence que j'ai par rapport à tout le monde qui nous écoute par rapport à ces choses-là. Si, en une seconde, si un chroniqueur anglo faisait une chronique en disant les Québécois se prennent pour les francophones, puis ça les empêcherait d'affirmer le fait qu'ils sont francophones, ça ferait scandale, là, mm-hmm. en une fraction ouais, de seconde.
Absolument.
Puis on dirait pas, ah, il y a un débat, il y a un déni, il y a un problème. On serait très clair sur cette question-là.
Mais, puis en plus, c'est que je trouve que de questionner s'il y a racisme systémique ou pas au Québec, ça ralentit. C'est comme ceux qui croient pas au changement climatique. C'est fait, dude, on n'a pas le temps. De t'entendre parler de exact. Ça, faut régler le fucking problème. Toi, tu questionnes qu'il y a un problème alors qu'il est là.
Exact.
Tu ralentis le...
Puis c'est là où moi, là-dedans, je suis d'accord avec toi. Et ce que je dirais, c'est là où pouvoir responsabilité. Parce qu'il y a du monde qu'ils veulent comprendre, mais ils se font dire que le premier ministre, il n'ose pas dire qu'il y en a. S'il n'ose pas dire qu'il y en a, notre leader, là, c'est comme...
Mais c'est terrible. Ouais. C'est terrible que tu aies dit ça. C'est terrible. Je connais rien à la politique, mettons. Mais si c'est un move politique, c'est j'ai trouvé ça grave. J'ai trouvé ça grave.
Tu sais, c'est de base. C'est de base.
C'est mais de c'est base. C'est manquer de respect, ou du moins de pas... C'est de manquer grandement d'empathie pour un grand pourcentage de la population.
Exact. Puis c'est là où... Quand des individus qui ont plus de pouvoir prennent des positions qui désinforment les gens, Je pense que c'est là où moi je trouve ça difficile de dire comment est-ce qu'on on continue le combat pour que les gens soient informés, mais comme pour jouer, soit dans utiliser l'image de la game de hockey ou le mouvement où on veut avancer, c'est comme ceux qui sont supposés avoir les mains au volant là. Ils sont sur le neutre, là. C'est comme, hey, la gang.
Mais c'est qu'en plus, c'est que ça démontre une grande imperméabilité, un grand côté de c'est fermé.
Ouais.
D'affirmer, non, il n'y a pas ça ici, ouais. Point.
Ouais. Juste être fair, par contre, parce que je pense que pour être fair, sa déclaration la plus récente, si on parle de notre premier ministre, parce qu'il y en a qui ont dit ça.
Ouais.
Mais le premier ministre, tu sais, il n'ose pas en affirmer parce qu'il dit qu'il y a un débat sur la question. Mais c'est comme dire, y a-t-il un débat sur les changements climatiques? Tu sais, t'es là, puis tout le monde t'écoute, puis tu fais, ouais, il y a du monde qui dit qu'il n'y a pas de changement climatique. Bro, on n'a pas le temps.
Non, c'est ça.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, comme toi, dans ta job, man, écoute ceux qui ont peut-être une perspective plus informée, puis move forward. Puis même que, pour revenir à un des premiers trucs qu'on a discuté, je pense que là-dedans, il y a aussi une volonté, tu sais, mettons qu'on prend l'humain, là, je vais par une hypothèse, c'est le droit à l'erreur, parce que après ça, de revenir puis dire, ah, finalement, je vous dis qu'il y en a, est-ce qu'il y a le droit de faire ça? Puis moi, je pense que oui.
Ben oui, moi aussi.
Moi j'attendrais, là, qu'ils disent, hey, j'ai étudié, man, j'ai lu des livres, je me suis renseigné, puis oui, je pense qu'il y en a. Là, c'est comme, hey, man, t'as montré comment les humains peuvent évoluer, changer, tu sais.
Mais ça, en plus, c'est que ça revient à... Ça me fait penser. En tout cas, c'est que venant d'un homme blanc, de nommer quelque chose qui techniquement le regarde pas, pas le regarde pas, mais qui a pas une incidence quotidienne sur sa vie, c'est un grand. C'est comme quand à l'époque, il y a quelques années, ouais, Trump, puis c'était tous des hommes blancs autour de la table qui avaient signé un truc contre l'avortement, tu sais, aux États-Unis, puis tu fais. Il n'y a pas une femme dans la photo? Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas... Chris, ça comme vous savez pas c'est quoi se faire avorter. Ça, vous vivrez jamais ça. C'est pas un, ça ne viendra pas vous chercher dans votre tout ce que vous êtes qui fait en sorte que... je trouve, tu sais, j'écoutais un podcast de Pete Holmes puis Bo Burnham, deux humoristes. Bo Burnham, qui est un jeune humoriste complètement brillant, là, puis... Puis à un moment donné, c'est ça, là, il était dans sa famille, puis sa famille se met à parler justement du... Puis ça, c'est en 2016, là, alors que Black Lives Matter a débuté, si je me trompe pas. En fait, ça fait longtemps que ça joue, il y avait une recrudescence
ouais,
du
ouais,
mouvement.
Oui, 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 exact.
Puis il avait arrêté sa famille, hey, time out, on est 6 blancs autour de la table. Notre opinion par rapport à ce projet, tu sais, n'est pas importante. C'est-à-dire que c'est pas comme... Est-ce que ça a lieu ou pas? En ce moment, c'est pas ton opinion par rapport à ce que toi, tu crois, c'est pas ça la question.
Et certainement moins... sans exclure la pertinence que quelqu'un qui vit pas quelque chose en parle, est juste moins informé.
C'est ça.
Moi puis toi, comme tu dis, on va jamais se faire avorter, man. Et donc, on peut bien parler en ce moment d'avortement. On n'a jamais même pensé que ça nous arrivera dans une vie. Ça nous est jamais arrivé. Et on manque donc un gros bout d'information. Tu sais, on mettrait jamais des commentateurs sportifs qui ont jamais joué au hockey à commenter le hockey.
Exact. Ouais. Simple comme
on
ça.
On regarderait ça puis on ferait. Il manque des anciens joueurs puis des coachs de hockey. Point.
That's it.
Point. L'analyse là est comme. Puis peut-être qu'on va accueillir. Moi, j'ai jamais joué au hockey. Mais je pense que si on me mettait comme commentateur, je connais le sport, je serais capable. Mais trois personnes comme moi sur trois, on dirait non. Ou en fait, on pourrait dire oui, mais c'est quoi la conséquence que ça a? C'est que je vais manquer bien des affaires qui sont importantes sur la glace. Je ne sais même pas patiner correctement. Tu sais, comme, je ne suis pas capable de parler de ça de manière complète. Fait que si on veut être informé, ayons des gens qui sont informés.
Mais après ça aussi, tu sais, c'est que, mettons, je pense que pour ton exemple, il y a quelqu'un qui pourrait étudier la game big time puis tout ça, puis être informé, puis pouvoir bien commenter le hockey. Mais il n'en demeure pas moins que il demeure qu'il n'est pas sa glace quand
t'es
même.
Pas sa glace.
T'es pas un acteur de ça. T'es que témoin encore.
Exact. T'es pas sa glace. Ça revient au mystère de inépuisable. Ça revient à des choses que si t'as pas été là, tu l'as pas. Il y a des choses qui sont innommables, même que tu n'es pas capable de vivre. Moi, je ne connais pas, je vais aller vraiment dans le spécifique, là. je ne connais pas l'odeur d'un équipement de hockey suant après un tournoi. Je connais pas ça. Je peux me l'imaginer parce qu'on m'en a parlé. Je suis déjà allé dans un vestiaire à faire pas sûr, tu sais. Comme j'ai déjà été dans des arénas. Mais de savoir ça dans le vécu de c'est quoi un joueur de hockey, I don't know. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu une puck
au
bout de la palette. Puis de voir quelqu'un s'approcher pour me faire une mise en échec. Donc, je peux bien savoir, je ne sais pas. Donc, ces éléments-là qui sont des moments, des fois, qui ne sont pas dans les livres, ou s'ils sont dans les livres, c'est juste dans le cognitif, je ne les ai pas vécus. Fait que si on le met aux enjeux sociaux, ça ramène à l'importance d'avoir des conversations qui... C'est comme, peu importe ce que tu as étudié, you don't know.
Exact.
Puis de respecter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tu sais.
Puis ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est quelque chose, mettons, que moi, j'admire chez mon père, qui est un homme entrepreneur, nanana, tu sais, qui a réussi, peu importe. C'est tellement puissant de voir quelqu'un qui est capable de dire « je sais pas ». C'est fort.
Oui.
Ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intelligence, curieusement. Tu sais.
Exact.
Tu sais, faut être game de dire ça. Puis, faut accepter aussi. Il y a des gens qui accepteront pas de « man, je sais... » Il y a plein d'affaires que je sais pas dans la vie. Je sais pas c'est quoi être un homme noir au Québec. Je sais pas c'est quoi être une personne trans. Je sais pas... Name it, là, tout ça, là, après ça... qui fait en sorte que, encore une fois, ça revient à l'empathie, ça revient, je sais pas c'est quoi, mais je peux être empathique à ta situation. Je peux t'écouter, je peux vouloir avoir une conversation avec toi.
Exact, exact. Puis de tenter de s'approcher puis de faire son mieux rendu là, tu sais.
Ouais, absolument.
Mon cerveau, il est comme...
Man, Fabrice, on a fait combien de temps, Nick? Ah, c'est ça.
Hein? Tabarnouche, hein?
Man, Fabrice Ville, ça a été... Merci tellement de m'avoir offert de ton temps ce matin.
C'était vraiment... En fait, merci à toi. Puis j'ai vraiment trouvé cette conversation-là riche.
Moi aussi. Je pense qu'elle va m'habiter longtemps. Puis je suis persuadé que ça va résonner dans la tête et le cœur de plusieurs personnes qui vont l'écouter. Merci sincèrement. Puis bravo pour tout ce que tu fais. C'est rassurant de t'avoir dans le paysage québécois.
Merci à toi. Je l'apprécie. Je suis content de notre moment ensemble.
Merci Fabrice. Salut.
Cool.